écoute, là, fait qu'on parlait des analogies boiteuses de Catherine Dorion avant que tu commences à enregistrer dans son entrevue de presse. Puis j'allais te poser la question. Y a-t-il qui ont déjà vu le show Yes Minister ou Yes Prime Minister?
Vite de même, je ne pense pas l'avoir vu.
C'est un show que la BBC avait fait. Fait que tu devrais t'attendre à ce que ce soit un peu politique, mais normalement, tu t'attends à ce qu'un truc BBC soit un peu pro-gouvernement.
Ouais.
Mais non, ça ridiculise complètement la bureaucratie au complet. Puis à un moment donné, tu as le politicien qui s'appelle Jim Hacker. Puis tu vois qu'il est en train de choisir sa position politique en fonction des clips médias qu'il peut livrer. Donc, à quel point il peut livrer une clip mémorable à un journaliste? Il s'imagine faire un discours, puis il sonne comme genre une sorte de Churchill, puis là, il dit, en fait, il imite Churchill, puis il dit, « We must economize! » Puis là, il essaie de faire un ton churchillien. Mais tu vois que sa position n'a aucun rapport avec ce qu'il croit vraiment. C'est uniquement parce qu'il y a une clip qui va avec. Des fois, j'ai l'impression que quand j'écoute des conférences de presse, c'est pas l'argument d'un politicien, c'est pas l'argument qui compte. Ce qui compte, c'est est-ce que je suis capable de livrer une clip qui va passer dans les 4 secondes à Radio-Canada, à TVA, à V, peu importe c'est où, n'importe quel canal de nouvelles que tu regardes. Est-ce que je suis capable de livrer une clip qui a l'air punchée puis qui frappe mon adversaire au diable la substance?
Oh, ben, je pense que c'est le rôle de tous les feuseux qui tournent alentour des politiciens, là, de leur fournir des petits liners et des petites affaires qui vont. Un des meilleurs exemples de ça, c'était dans le dernier débat des chefs au provincial qu'il y avait eu, là, où à un moment donné, François Legault avait dit à Jean-François Lisée, vous, monsieur Lisée, je vous connais, pour chaque problème, ça prend une taxe. Un problème, une taxe. Un problème, une taxe. Clairement, c'est pas lui qui a pensé à ça. C'est quelqu'un qui écrit un liner, dit, ah, ça va être bon, ça. Tu vas avoir l'aide de quelqu'un de droite économique. Là. Prends ça puis dis ça quand tu vas te faire parler par Lisée, alors qu'en réalité, il est aussi péquiste que l'autre. Là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
Le pire, c'est que les promesses du PQ étaient moins coûteuses pendant la campagne. Le PQ proposait de dépenser moins que la CAQ.
Oui, oui, les affaires de faire des sandwichs aux enfants pour aller à l'école, ça aurait quand même coûté moins cher que les niaiseries de la CAQ. Là.
Ben, puis, le pire, c'est quand les politiciens tombent dans l'anecdote. Là, là, il est fait chaud un peu une journée, puis là, on sort dehors, ben, regardez là, les changements climatiques. Puis là, tu avais le pont de Pierre-Laporte qui allait être fermé une voie, puis là, ça a été le drame dans la région. Là. Tout le monde était là, hein, on ne pourra plus circuler, on ne pourra plus traverser. Finalement, lundi, passe, tout va bien. Mardi, tout va bien. Les gens ne réalisent pas à quel point l'humain est capable d'adapter son comportement. Je veux dire, si tu sais d'avance que le pont va être fermé, ben tu peux planifier tes vacances, tu peux te mettre plus en télétravail. Tu sais. Fait que finalement, on a comme créé un gros problème, mais le problème n'est pas arrivé. Fait que là, d'ailleurs, de l'autre côté de la médaille, il dit ben, vous voyez, même quand il y a deux voies de fermées, on n'a pas besoin de troisième lien. Là, tu dis ah. on utilise toujours l'anecdote pour arriver avec notre propagande, notre agenda. Puis à un moment donné, t'es là, tu dis arrêtez. Là. Mais en même temps, c'est dans la nature même de la politique. Tu dis c'est quoi le sujet de l'heure? Puis on le fait. Puis tu sais, même moi, je le fais de temps en temps. Je dis bon, le Canadien, par exemple, en finale de la Coupe Stanley, c'était la chose la plus parfaite pour montrer que les mesures sanitaires n'ont plus rapport. Fait que t'es tout le temps là. Puis le pire dans tout ça, c'est que tu arrives avec un texte d'argumentation soigné, réfléchi, recherché, tu publies ça, tu n'auras pas de clic. Les podcasts qu'on fait, le trio économique, ça n'a pas de range qui est viral. Mais si tu arrives, tu pognes le sujet du jour avec la clip du jour, boum! Tu viens de mettre le feu au poudre, puis ça part, puis là, tout devient viral. Fait que, tu sais, l'incitatif du politicien, c'est quand même de faire ça. Parce qu'il n'y a rien qui devient viral quand c'est recherché, logique et réfléchi. Ça devient viral parce que c'est dans l'actualité, puis c'est un peu niaiseux, mais ça fesse, tu sais.
Oui, c'est clair. Vincent est un peu désabusé. Non, mais je pense que ça revient un peu à ce qu'on avait dit, je pense, au troisième podcast qu'on avait fait, là, où on parlait un peu du débat d'idées, puis Vincent avait donné l'exemple d'un débat célèbre qu'il y avait eu aux États-Unis où quelqu'un avait l'air d'avoir sorti un peu vainqueur de tout ça juste parce qu'il avait déstabilisé l'autre personne dans le débat. Mais c'est un peu ça. Là. Si, admettons, je sais pas, moi, Macron fait une conférence de presse pour annoncer son nouveau programme fiscal, je veux dire, personne ne va parler de ça. Mais s'il se fait donner une claque d'en face parce qu'il est dans un truc d'or à l'extérieur, ça fait le tour de la planète, tout le monde voit, puis tout le monde suit les événements. Donc, c'est ça, je pense que c'est l'humain est comme ça. D'aucuns diraient humain trop humain, mais c'est comme ça. Je pense que ça, on ne peut pas nécessairement se battre contre ça, même si on peut même si on peut quand même valoriser d'avoir un échange d'idées sains à quelque part aussi là-dedans. Mais tu sais, j'ai remarqué que c'est très dur de débattre là, de nos jours. Tu sais, même Vincent, tu l'as dit à un moment donné, il y a des places que, tu sais, où tu avais été invité ou où tu avais dit simplement si je suis invité puis il y a ce genre de personnes-là, moi, j'y vais pas parce que je veux pas te donner de crédibilité à quelqu'un qui est comme ça. Mais tu sais, moi, je le vois dans le cadre d'un petit podcast que je fais. Des fois, j'essaie d'inviter des gens. Puis du moment que tu invites quelqu'un qui sent que tu pourrais, en fonction de ce qu'il pense que tu es, être un peu hostile à ses idées, il ne voudra pas du tout que venir. Les gens ont peur de se faire attaquer. Les gens ont peur. Je ne sais pas de où ça vient. Puis je ne sais pas si c'est typiquement québécois, mais honnêtement, c'est vraiment...
C'est normal. Il n'y a personne qui aime ça se faire dire qu'ils ont peut-être tort ou qu'ils doivent penser un peu à ce qu'ils disent. Ma règle, moi, avec qui je refuse d'engager, c'est des gens qui sont juste violents. Donc, tant que mon intégrité physique n'est pas en question, je vais te parler avec n'importe qui, droite, gauche, mais aussi en question, l'autre critère, c'est est-ce que tu as dit des choses, tu mettons... Je n'irai pas parler avec un antisémite. Je n'irai pas parler avec... Il y a des gens que je ne veux pas leur prêter ma crédibilité, en gros, en ayant une conversation avec eux, mais au-delà de ces deux critères-là, la violence et le fait que je ne veux pas leur... Parce qu'il y en a que ce qu'ils cherchent, c'est un peu comme l'espèce d'historien fasciste qu'il y avait en Angleterre, Irving.
Oui, David Irving.
Qui essayait tout le temps de troller des chercheurs. En fait, je pense que c'est ça qu'il avait retrouvé, qu'il avait amené à être en cours pour une diffamation. Il avait trollé une professeure d'histoire américaine. Il essayait à toute fin pratique de free-rider sur sa crédibilité à elle pour que lui, ses vues soient entendues. Ceux-là, généralement, essaient de les ignorer, mais le problème de ces trolls-là, parce que ce sont des trolls, c'est qu'il n'y a personne qui veut leur parler, mais eux vont s'inviter dans la conversation. Fait que tu es comme un peu obligé de dealer avec eux. Et donc de les écraser après dans une discussion sérieuse et sincère parce que faut que tu dises que non, t'as tort.
Ouais.
Bon, il va que le premier sujet, on avait dit qu'on t'a discipliné aujourd'hui.
Oui.
Ah oui, c'est premier sujet. Ben moi, je vais vous laisser introduire les sujets parce que Vincent a comme inondé la conversation de groupe de propositions de sujets, puis je ne me souviens plus vraiment en fait de quoi on est censé parler.
Écoute, on avait le truc de Gapminder, Amazon, puis les choix d'école, je pense qu'on avait dit qu'on voulait parler.
On va commencer avec Amazon.
Oui, allons-y avec ça.
Oui, bien écoute, ça, c'est parce que cette fin de semaine, il y avait un rapport, on va appeler ça de même, dans le Journal de Montréal, sur les conditions de travail chez Amazon, comme quoi que les gens... travaillent à faible salaire, puis ils se font abuser. Mm-hmm. Puis j'ai pris comme 5 minutes pour aller voir les salaires postés dans le domaine warehousing, puis comparer avec les salaires comparables. Donc, c'est des secteurs qui demandent à peu près les mêmes qualifications. Oh, c'est les salaires qui augmentent plus vite que dans les autres secteurs comparables. Puis ça me fait dire que... Puis, quand je lisais cette affaire-là, c'était incroyable. Je ne mentionnais pas du tout ça. C'était juste les conditions de travail dans ce domaine-là. Hey, pense 2 secondes. Les gens quittent. Mettons que tu quittes un secteur, une compagnie qui fait un service comparable, puis tu t'en vas quand même chez Amazon. C'est pas comme si les gens cachaient les conditions de travail chez Amazon, que c'était pas facile, que c'était demandant. Mais ils ont décidé de le faire, le choix d'aller travailler là. Puis tu vois que les salaires sont plus élevés là que dans les comparables.
Ben,
es-tu en train de dire que les gens sont trop cons pour réaliser qu'il existe des meilleures options que
Juste une attaque gratuite envers une compagnie
c'est
ça. Pas,
ben non, c'est clair. Compagnie multinationale de surcroît, c'est toujours facile de s'essuyer les pieds dessus. Mais moi, en fait, je n'ai même pas checké les chiffres, mais il y a juste une contradiction extrêmement apparente qui me fait penser que tout ceci était uniquement de la bullshit. C'est que quand tu regardes les gens qui sont contre, par exemple, l'ouverture d'un entrepôt Amazon quelque part ou d'un centre de distribution ou peu importe, qu'est-ce que les gens... Tu es juste allé voir qu'est-ce que les gens disent. On l'a eu, cet exemple-là, nous autres, à Québec, quand il était question de... Parce qu'à un moment donné, il y avait Amazon cherchait une ville au Québec. Et qu'est-ce que notre charmant maire de la ville de Québec a dit? Il a dit, Ben non, mais eux autres, quand ils s'installent quelque part, ils siphonnent la main-d'œuvre des petites entreprises qui sont autour. Donc, on va se ramasser avec un problème. On n'en veut pas de gens de grosses entreprises qui arrivent et que tout le monde veut aller travailler là. Donc, c'est on a des entreprises où les gens sont très mal payés, les conditions sont abjectes, mais quand ils s'installent quelque part, tout le monde crisse sa job-là pour aller travailler là. Ça doit être quand même que ce n'est pas si pire comme condition.
Ben, écoute, un économiste n'aurait pas pu dire mieux que ça. C'est OK, fine, mais pourquoi est-ce qu'ils choisissent d'aller là? La seule manière que ça serait nocif, c'est si tu n'avais pas d'autres choix. Puis il y a quand même il y a un argument qui est fait aux États-Unis que j'accepte un peu contre Amazon, mais ce n'est pas exactement contre Amazon. En fait, c'est plus contre les restrictions que les gouvernements imposent. C'est l'idée qu'Amazon est tellement un gros employeur dans des domaines, dans des endroits, parce qu'ils ne s'établissent pas dans les grandes villes, ils s'installent genre dans des domaines semi-ruraux à toute fin pratique, donc des plus petites villes. Mm-hmm. Puis dans ces petites villes-là, ils ont un gros effet sur la détermination des salaires dans ces marchés-là.
Ouais.
Mais là, il y a des gens qui disent, regarde, ils ont un monopsone. Fait que comme ils ont un pouvoir, ils simultanément les salaires pour tout le marché, mais en déterminant le salaire, ils déterminent combien de gens sont embauchés, pour combien d'heures, dans quelles conditions. Fait que là, tu sais, il y a comme un argument là-dessus, mais la réponse que j'ai à toutes ces affaires-là, c'est ben, ta prémisse, c'est que les gens n'ont pas d'autre option que dans la petite localité. Mais as-tu déjà pensé que, par exemple, le contrôle des loyers dans les villes, les restrictions sur les nouvelles maisons dans les villes, fait en sorte que les gens ne peuvent pas, comme ils n'ont pas l'option de quitter pour ailleurs? Fait peut-être que quand tu mets des politiques gouvernementales qui limitent la migration des gens à l'intérieur d'un pays, ben, tu es en train de t'assurer que un gros joueur puisse avoir un gros effet. Alors que si tu as un marché national du travail, tu as un marché unifié, où est-ce que les gens peuvent migrer bien facilement, bien, Amazon n'a pas cet effet-là sur les salaires. En fait, Amazon est obligé même de combattre en offrant des salaires encore plus élevés pour attirer les gens. Mais la réalité, c'est que cet argument-là même, empiriquement, il n'est pas fort fort, selon moi, là, parce que le fait est que les salaires augmentent plus rapidement dans le warehousing que dans les comparables en termes de qualité. De qualification chez les travailleurs.
Utiliser le mot monospun, peux-tu l'expliquer un peu? Moi, je le comprends bien, mais je pense qu'il y a des gens qui seraient intéressés de comprendre.
Monopson, c'est l'inverse d'un monopole. Le monopole, c'est que tu as un seul offreur. Un monopson, c'est que tu as un seul demandeur. Le seul demandeur, lui, ce qu'il fait, c'est comme lui, plus il demande sur le marché, disons, des travailleurs, bien, plus il doit augmenter les salaires. Et donc, ses coûts d'un travailleur de plus augmentent beaucoup plus vite que l'offre de travail qui est disponible. Donc, dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, OK, je vais essayer de trouver le salaire qui maximise mes profits sous la contrainte que je suis le seul demandeur. Donc, je ne prends pas... Tu sais, quand tu es une compagnie compétitive, le salaire que tu payes à tes gens, quand tu as plusieurs compagnies qui compétitionnent pour des travailleurs, le salaire que tu payes à tes gens, c'est tu le prends ou tu le laisses, right? Parce que le gars peut juste aller à côté facilement puis il est payé plus que ce que toi, tu y offres. Dans un marché avec un monopsone, comme je suis tout seul dans le marché, bien, si moi, j'augmente mon salaire, mes coûts vont augmenter, mais il faut que j'augmente le salaire pour tout le monde avant, fait que ça me coûte plus cher. Quand tu es un monopsone, c'est que tu es le seul demandeur. Puis là, il y a comme un argument qui est avancé pour pourquoi genre Amazon pourrait avoir des effets pervers. Il y a un débat.
Le plus gros monopsone, donner des exemples aux gens qu'on connaît au Québec, c'est la Régie d'assurance maladie du Québec, qui n'est pas tout à fait un monopsone, mais presque tellement un gros acheteur de médicaments, par exemple, que c'est lui, le gouvernement, qui décide du prix qui va être chargé. Puis les gens ne le réalisent pas, là, mais en pharmacie, par exemple, le prix d'un médicament, c'est cost plus 7 piastres. Que le médicament coûte 2000 ou 30 piastres, c'est cost plus 7 piastres, à peu près, là.
Oui, bien, ça fit avec une raison, c'est que quand tu es un monopsone, la manière que tu maximises tes profits, c'est qu'il faut que tu trouves le prix. Là, je vais essayer de le moins jargonner possible, mais tu mets ton prix égal à ton coût marginal dans ce cas-ci. Normalement, quand tu es en compétition, ton prix, c'est le prix du marché. Mais là, c'est toi qui sets le prix. Mais la seule manière que tu as de setter le prix, c'est de réduire la quantité que tu mets sur le marché. Soit que la quantité de travailleurs que tu embauches, ou si tu es un monopsone, donc tu es le seul qui demande un certain service, donc tu es le seul acheteur, bien dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que pour maximiser ton profit, il faut que tu minimises la quantité d'achat que tu fais. Donc, un monopson, dans ce cas-ci, ce qu'il fait, c'est que les gens disent « Ah, OK, le gouvernement du Québec fait X ou Y, mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que ça veut dire que vous avez moins accès à des médicaments. »
Exactement.
Autrement. Ouais. L'effet d'un monopole, c'est qu'il y a moins de quantité en circulation.
Mais est-ce que tu peux être un monopole et un monopson? Ben, je pense, mettons, à la SAQ, là,
ben,
dans certains produits, est le seul acheteur.
Oui, mais ben là, il y a un débat super théorique. Je ne sais pas à quel point on va embarquer là-dedans ici, mais moi, il y a deux clans. Il y en a qui pensent que ça peut exister séparément. Donc, ça peut être en vertu d'un bien ou de quelque chose. Puis, tu as un autre clan dans lequel moi, je fais partie. C'est que pour que tu aies un monopson, il faut que tu aies un monopole.
Tu ne peux pas
avoir un sans l'autre. Les deux sont...
Ouais.
Un est juste le reflet de l'autre. Donc,
c'est ce que j'avais tendance à penser en même temps que tu parlais. C'est pour ça que j'ai amené cet exemple-là.
Oui, bien, l'exemple qu'il y a au Québec de monopson, c'était le régime seigneurial avant 1850 au Québec.
Mm-hmm.
Le régime seigneurial, en gros, les Québécois ne pouvaient pas quitter leur concession que le seigneur leur avait fait. Donc, tu étais limité géographiquement à ton endroit. Fait que, le travailleur n'avait pas beaucoup d'options de flip the bird au seigneur et de dire « je m'en vais travailler ailleurs ». Il pouvait juste travailler sa ferme et that's it. Mais le seigneur avait aussi un monopole. Dans le sens que le seigneur était le seul, par exemple, qui pouvait ouvrir un moulin, ou s'il ouvrait d'autres activités, il pouvait aller taxer les autres activités. Mais si lui opérait ces mêmes activités-là, il ne se taxait pas lui-même. Fait que, tu sais, il pouvait établir un désavantage pour ses concurrents. Bien là, tu vois que d'une part, il restreint la capacité des gens de se déplacer.
Mm-hmm.
Fait que tu es le seul employeur dans ta place. Mais la raison que tu es le seul employeur dans ta place, c'est parce que tu as un monopole sur l'entrée dans le marché. Des produits comme, par exemple, disons, les moulins à scie. Donc, tu transformais le bois en douve ou en équipement maritime. Bien là, tu faisais en sorte que le monopson que le seigneur avait sur le marché du travail était le résultat du monopole que tu lui avais donné sur c'est un monopole régional ou local sur la production de certains services ou biens.
Si on revient avec Amazon, on est-tu encore dans le cas où est-ce que les gens qui comprennent mal l'économie, j'ai toujours eu pour m'en dire, c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, c'est juste qu'ils s'imaginent que les choses sont statiques dans le temps. Donc, il va y avoir un changement majeur qui arrive. Donc, dans ce cas-ci, Amazon s'établit dans une petite localité et qu'après ça, tout reste égal. Tu sais, tout reste la même chose, sauf que maintenant, il y a Amazon en plus. La réalité, on sait qu'est-ce qui va arriver. Ça va attirer des gens. Il va y avoir des développements urbains. Il va y avoir des développements résidentiels.
Je sais ce qui s'est passé à Mississauga. Là, je veux dire.
L'immigration va arriver aussi. Il va y avoir des déplacements régionaux. Ça va bouger. Puis, en dedans de 2, 3, 4 ans, le paysage local de la municipalité qui accueille un gros entrepôt Amazon va avoir complètement changé. C'est assez évident. Puis probablement que là, les choses vont s'être rééquilibrées. Là. Donc, il n'y aura plus cet avantage-là pour Amazon d'avoir un monopson parce qu'éventuellement, il va y avoir d'autres entreprises qui vont avoir besoin de main-d'œuvre puis qui vont aussi concurrencer un peu pour les mêmes travailleurs.
Oui, bien c'est là que tu vois que je pense que la question du monopole qui vient avec le monopson pourrait peut-être être intéressante. C'est quand tu regardes Amazon, l'argument qui est fait, c'est que dans des petites zones où est-ce que Amazon s'établit comme des villes de 30, 40 000 personnes, faire un entrepôt ou des choses comme ça, là, ils ont un gros effet sur le marché local. Donc, il y a une sorte, ce qu'on appelle, c'est un market power qu'ils obtiennent sur ce marché-là. Bien, pourquoi est-ce qu'ils ont un market power? C'est ça qui devrait être posé comme question. Bien, aux États-Unis et au Canada, bien, le market power qu'on donne indirectement, c'est qu'on rend les villes inaccessible avec des restrictions sur le logement, des restrictions sur la construction. Donc, il faut que tu aies un tellement gros gain salarial que tu peux te permettre de te déplacer vers la ville que pour des petits gains, tu ne le fais pas. Mais là, ce que ça fait, c'est que tu peux t'imaginer qu'il y a comme en fait plusieurs marchés du travail au Canada. Au lieu d'un grand marché du travail, tu as ceux des villes qui sont isolés, puis tu as ceux des petites communautés rurales qui sont isolées aussi. Puis pour sauter de un à l'autre, un type de marché à l'autre type de marché, il faut vraiment que tu aies un gros jump discret dans ton revenu. Tu ne peux pas shifter facilement entre les places. Bien, c'est le résultat de politique publique. Ce n'est pas le résultat genre d'Amazon qui est evil.
Ouais.
C'est que l'État a donné, pas sciemment, mais par accident, à Amazon la capacité dans des plus petits marchés, donc les localités. Ça, c'est si j'accepte cet argument-là. Empiriquement, je pense qu'il est discutable. Mais si, mettons, j'avais tort, ben, je peux quand même dire que ce n'est pas Amazon le problème ici. Amazon n'est qu'un symptôme du problème que l'État a,
ben, si on
a mal
traduit
fait fonctionner les marchés du travail.
Si on traduit en langage gauchiste ce que Vincent vient de dire, on appellerait ça la gentrification.
L'argument de la gentrification, là, écoute, là, tu me forces à aller off-topic de ce qu'on jase, mais ça, là, les gens comprennent zéro là-dessus. La gentrification, ça se fait tout le temps.
Ben et, oui. Ça s'appelle le développement, by the way. Là,
non, mais même pas ça. C'est que dans les villes, tu as toujours, même à l'intérieur de Montréal, tu as plusieurs déplacements. Les gens oublient, par exemple, que pendant longtemps, Outremont, c'était pas un quartier de riches au début, Outremont. Là. Ça n'a pas commencé comme un spot de riches. Saint-Laurent, Hansic, tous ces coins-là, c'était pas les endroits. L'ouest de l'île, pendant longtemps, c'était des terres agricoles. Tu ne vivais pas là parce que tu étais riche. La réalité, c'est que même dans un petit espace, les gens se déplacent immensément et ils vont se déplacer vers où? Généralement, puis quand on regarde des processus de gentrification, il y a un pattern qui émerge qui est assez généralisable. C'est que les endroits qui vont se gentrifier, c'est des endroits qui ont eu un déclin auparavant. Donc, tu as plusieurs unités qui sont libres, tu as des hauts taux de vacances dans cette sous-section-là, et tu as des gens qui voient là une opportunité pour créer quelque chose de nouveau, pour redynamiser le quartier. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui se déplacent, la demande augmente. Là, les gens disent, les salaires, les loyers vont augmenter. Effectivement, si tu fais ton économie 101, la courbe d'offre ne va pas s'être déplacée, mais la courbe de demande va s'être déplacée. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai que la courbe d'offre ne s'est pas déplacée. Parce que d'une certaine manière, ce que tu fais, c'est que si tu as plus de gens dans un quartier, tu as plus de services, tu as plus de valeur, tu as des emplois qui sont plus proches, tu as moins besoin de te déplacer à travers la ville pour occuper un emploi, fait que tu peux occuper un emploi qui a plus grande proximité de toi, tu as une plus grande sécurité, mettons, parce qu'il y a plus de gens qui peuvent observer la rue, donc il y a moins de crimes. Parce qu'avec la gentrification, il y a une diminution du crime qui vient, juste parce qu'il y a la théorie de « more eyes on the street », il y a plus de gens qui voient ce qui se passe, puis comme tu sais que tu es plus observé, ben, que tu as plus de chances d'être observé en train de commettre un crime, ben, les gens voient une valeur additionnelle. Fait que ce qui se passe, c'est que oui, la demande augmente, mais c'est un peu comme si la qualité de l'offre existante avait augmenté.
Ouais.
Donc, l'unité par unité de qualité, maintenant, tu en as comme plus par accident. Fait que, en fait, ce que tu as, c'est que tu as un bénéfice pour les gens. Puis, il y a un papier que les gens haïssent, les gens de gentrification, c'est qu'il y a un gars, Jacob Vigdor, qui avait vraiment lancé le débat là-dessus, puis ça a tenu son affaire, avec une exception que je vais mentionner. C'est que quand tu regardes la probabilité de quelqu'un de quitter un quartier qui se gentrifie après le processus de gentrification, la probabilité qu'il quitte diminue.
Ouais.
Ça veut dire que les gens, quand le processus de gentrification commence, même si les loyers augmentent, ils aiment mieux rester. Donc, ils ont moins de chances de quitter parce qu'il y a d'autres gains sur d'autres dimensions qui valent plus que l'augmentation de loyer.
Ben, tu sais, tu disais que ça nous mettait off-topic un peu, mais c'est pas pour rien que j'ai amené ce thème-là. C'est, moi, je trouvais que ça allait un peu dans le sens de ce que Yann disait, parce que Yann disait, l'exemple, par exemple, d'Amazon montre un peu comment beaucoup de gens pensent que les choses sont statiques, mais ça aussi, c'est un exemple de ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui ont l'air de penser que quand il y a qu'il y a de la gentrification quelque part, c'est comme si les gens qui sont là, qui sont à bas revenus, qui sont entre guillemets pauvres, c'est comme s'ils étaient condamnés à le rester, alors que le reste du quartier, lui, tu sais, s'améliore puis se développe. Mais moi, je dis oui, mais si tu es dans un endroit pauvre, puis que tu es pauvre parce qu'il n'y a pas d'emploi attrayant, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités économiques, ben, tu l'es parce que c'est dans le milieu où tu es, pas nécessairement accès à un meilleur emploi, tu n'as pas accès à des meilleurs services, etc. Mais si ton quartier se développe, ben pourquoi tu resterais, je veux dire, ça se peut, mais pourquoi tu resterais pauvre comme avant alors que tu as maintenant des opportunités d'emploi plus intéressantes qui se présentent?
Mais regarde, il y a une manière de le simplifier. Le bénéfice de la gentrification, c'est tous les gains de services que tu as. Right? Le coût de la gentrification, c'est le loyer plus élevé que tu as si tu étais la personne initialement dans le quartier. Ben, si, mettons, tu dis... On ne peut pas augmenter le nombre d'unités de logement. La plus grande demande fait en sorte que tout le prix, c'est juste une augmentation de prix du logement. Right? Faut vraiment que tu aies beaucoup de bénéfices d'avoir plus de monde. Mais qu'est-ce qui arrive si, mettons, tu rends l'offre plus élastique? Donc, tu permets que c'est possible d'ajouter des unités. ben ça veut dire que la demande ne va pas créer une aussi grosse augmentation de la demande, ne va pas créer une aussi grosse augmentation des prix. Mais tu vas avoir le même bénéfice. Tu vas avoir le même bénéfice, mais le coût va être plus petit. Quand les gens chialent après la gentrification, ils sont un peu confus. Parce que ce qu'ils sont en train de chialer fondamentalement, c'est sur l'inélasticité de la courbe d'offre de logement. Puis ce n'est pas le marché qui détermine l'élasticité de la courbe. Généralement, le marché détermine la structure des coûts des firmes détermine ça, mais une grosse partie de l'élasticité, c'est déterminé par ben, tu n'as pas le droit de construire ici parce que ordonnance de la ville. C'est sûr que là, tu vas en avoir une plus grosse augmentation de loyer quand tu fais ça ou quand tu décides que, par exemple, des règles stupides, comme tu as le droit d'avoir ton commerce, de vivre en haut de ton commerce ou d'avoir...
Nombre
d'étages, comme des restrictions comme ça. Puis, tu regardes les villes qui sont... Puis, c'est pour ça que je pense que le groupe de gens que je déteste le plus que les sociologues qui sont idéologiques, là, parce qu'il y a des sociologues que j'aime beaucoup. Il y a Fabio Roas, par exemple, que j'adore. Mais ceux tu sais, le cliché du sociologue qui est en campagne puis qui est activement, qui est politiquement actif, là, ça, c'est ceux-là que je ne peux pas blairer. C'est les urbanistes, que pour eux, ce qui est important, c'est que la ville soit lisible pour eux, qu'eux soient capables de comprendre qu'est-ce que la ville est. Alors que quand tu regardes l'évolution des villes, il n'y a jamais de plan à l'évolution d'une ville. Tu regardes l'histoire de quartiers comme Soho à New York ou... La Chinatown à Montréal, ça a l'air étrange et éclectique, mais c'était construit d'une manière qui était cohérente pour les gens qui vivaient là, puis que ça servait leur finalité à eux dans le quartier.
Mais à base, les urbanistes ne sont même pas capables de timer des lumières. Là, je veux dire, maintenant,
À la base, ce n'est pas une science non plus.
Ben écoute, je pense que je vais dire QED. Mais tu sais, il y a un super livre d'Alain Berthaud sur les villes, c'est Order Without Design. Puis Alain Berthaud, c'est un urbaniste qui est la grande exception aux urbanistes que je suis pas capable de blairer. C'est parce qu'il dit que, il dit que sa job est absolument inutile. Puis il dit en gros, à part des codes de sécurité, mettons, c'est une certaine base minimale de sécurité, tu devrais rien faire dans les villes. Tu devrais laisser les gens construire comme ils veulent parce que tu sous-estimes. Tu sais, parce que la seule chose que... Puis ça, c'est peut-être... Je vais être généreux à l'égard des urbanistes. Le vrai problème, tu sais, de construire dans une ville, c'est l'externalité que ma construction impose sur toi. Donc, tu sais, si, mettons, moi, je construis puis je construis tout croche puis que ça augmente tes risques de passer au feu, bien là, il y a une externalité de mes actions. Puis là, il y a une justification économique pour... une certaine intervention. Bon, ça dépend, tu sais, je ne suis pas convaincu que ça nécessite, tu sais, que l'intervention est possible sans des coûts supérieurs. Tu peux débattre de ça, mais il y a une justification qui est plausible.
Écoute, la seule fois que j'ai fait affaire avec un urbaniste, moi, dans ma vie, imagine-toi, c'était pas dans un milieu urbain. On avait un chalet sur le bord de l'eau, puis on sacrait à terre et on le refaisait au complet. On voulait faire un genre de duplex avec, mais là, il fallait que ce soit considéré bigénérationnel. Puis là, il y avait des normes à respecter pour s'assurer que ce soit bigénérationnel et qu'il y ait juste une adresse. Puis ça, c'était bien, bien, bien compliqué. Mais en gros, si l'escalier était principal, donnait accès aux deux logements et à une salle commune, donc la buanderie dans le sous-sol, tout était correct. Mais s'il n'y avait pas cet accès-là commun. Donc, s'il n'y avait pas une pièce commune pour les deux loyers, ben là, ça ne fonctionnait plus. Puis là, ça c'était considéré comme un duplex. Puis là, il fallait comme faire deux unités avec deux numéros de portes différents. Puis une grosse affaire. Fait que finalement, on a fait approuver nos plans une fois, retourne avec le designer puis l'architecte, ramène les plans, l'urbaniste. Bon, puis là, gros processus pour finalement juste aller chercher un rubber stamp. Je veux dire, tu es urbaniste à Métabetchouan. Tu sais, je veux dire... C'est pas un milieu urbain. Là.
J'ai une question fondamentale. Ça t'a coûté combien de faire les plans, de refaire? Non, dis-moi juste un ballpark.
C'est un 1000 à 2000, certain.
Ben, OK. Fait que quand tu as vendu l'unité, t'as-tu ajouté 1000 à 2000 sur le prix?
Ben non. Ben, on l'a gardé, là. On les a encore. Là, mais...
Non, mais si tu vendais, est-ce que ben tu le vendrais? Faut que tu rentres tes coûts marginaux. Fait que tu vas. Tu n'aurais pas fait l'investissement si c'était plus élevé comme coût. Là.
Non, mais exactement.
À un moment donné, tu vas offrir un prix qui match un peu
les coûts que tu as payés. Ah non, c'est vrai. J'ai déjà fait une autre affaire. On avait un genre de projet. Oui, c'est vrai. On avait un projet de mettre des cages de frappeurs dans une bâtisse à Saint-Anselme. Puis là, il y a des terrains à vendre à Saint-Anselme industriel slash commercial. Fait que là, on s'est informé, on avait spoté un terrain qu'on voulait peut-être faire une longue histoire courte. Là, on s'en va voir la ville. Là, ils disent, ah, il n'est pas bien zoné. C'est comment ça? Ben, il est zoné commercial, ce terrain-là, mais il n'y a pas l'appendice 9C, genre, ou peu importe, là. Et autrement dit, là, j'avais le droit de faire un bar de danseuse, mais je n'avais pas le droit de faire un sport intérieur. Donc, claquer des balles de baseball, c'était pas correct, mais aller pogner des totons, c'était correct.
T'aurais dû mixer les deux, ça aurait été.
Techniquement, dépend de what gets your boat going, comme on dit. C'est techniquement possible de te faire de kicker des balles. Puis...
Ouais, c'est ça.
Il y a des gens, je ne veux pas faire de jugement, mais il y a des gens qui ont des certains kinks, là.
Mais finalement, il a fallu faire une demande de résolution au conseil municipal. On a discuté avec le directeur général de la ville. Ça a coûté 1 000 $, évidemment. On a payé 1 000 $ pour un terrain que finalement, on n'a jamais acheté et qu'on n'a jamais fait le projet. Mais c'est nous qui a refait le zonage pour toute cette zone-là à Saint-Anselme. C'est nous autres qui a payé ça pour ce potentiel projet-là qu'on n'a pas fait. Puis, ma blonde est allée à la séance municipale, la première fois de sa vie qu'elle allait là pour être sûre que ça passe. Elle dit, c'était tellement fou. Elle dit, le maire et les conseillers, quand ils ont su cette résolution-là, ils ont fait, OK, de changement de zonage, il faut ajouter l'onglet 9C. Je dis 9C, mais c'était probablement pas ça. Au zonage de ces terrains-là, il y en a un qui dit, OK, il dit, pourquoi? Il dit, je sais pas. Il dit, je pense que c'est pour ajouter des activités intérieures dans ça. Ah, oh, des activités intérieures comme quoi? Ben, pas une allée de cave, des choses comme ça. Ah, c'est correct. Tout le monde a approuvé. Merci, ciao, bye. Ça a coûté 1 000 $. Le maire n'avait aucune idée de ce qui se passait. Les conseillers non plus. Mais le 1 000 $ a été payé. Ça, c'est vraiment important.
Ah, ça augmente le coût de faire affaire. Ça réduit la prospérité indirectement. Ça n'a rien ajouté. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il y a zéro cas pour le zonage. Mais tu sais...
Ça devrait être comme à SimCity, là. Bleu, c'est commercial. Jaune, c'est industriel. Puis rouge, même c'est résidentiel.
Là, non, moi, c'est plus ça que j'oppose. Le mixing, en fait, parce que là, ce que tu fais, c'est du redlining. Puis ce que ça a fait aux États-Unis, en fait, ça a créé beaucoup de ségrégation, d'une part.
Fait que tu dis que SimCity, on pogne le jeu, on s'axe au vidange.
Ben, en fait, ce que j'aimerais mieux, c'est juste des réglementations de sécurité. C'est-à-dire que tu dis, tu sais, voici certaines restrictions que vous devez avoir.
Ouais, genre zone inondable et des trucs de même.
Ouais, ou tu sais, genre zone par feu. Tu vas avoir un mur par feu. Tu peux pas. Des trucs vraiment de sécurité de base. J'oublie la liste parce que le livre de Berthaud que je mentionnais tantôt a vraiment. C'est vraiment comme une sorte de liste du minimum justifiable. Avec des bonnes bases de certitude que cette intervention de l'État va aider plus que nuire. Puis là, après, plus tu avances dans le livre, il dit que toutes les autres choses, c'est que peut-être que tu as des bénéfices de l'intervention, mais tu as aussi des coûts. Puis plus j'évolue dans ces exemples-là que je donne, plus les coûts deviennent supérieurs aux bénéfices. Donc, ça serait peut-être mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de bénéfices, right? Ça veut plus dire que tu te prives d'avantages qui sont importants.
On par exemple, juste... souvent l'esthétique hein, dans ces discussions-là. Je ne sais pas si
ouais, ça, c'est sûr que j'ai aucune tolérance pour. L'esthétique, c'est purement subjectif. Il n'y a aucune justification d'externalité dans l'esthétique. T'sais, je sais qu'il y en a qui vont dire, parce que l'externalité, c'est l'idée qu'il y a un coût qui est assumé par une tiers partie, que deux autres parties ont fait un échange. Donc, moi et Yann ont construit une maison absolument atroce, puis Frank, ça a pollué ses yeux de voir ça. OK, fine, tu as vraiment défini externalité super largement, mais dans cette définition-là, quelqu'un qui pète dans un restaurant, qui produit une externalité, et donc il devrait être taxé ou devrait être réglementé, c'est comme... Non, il y a d'autres mécanismes pour gérer ça, là, à la limite. Puis non, c'est ça, mais es-tu vraiment en train de me dire que c'est sur cette base-là que tu veux réglementer puis imposer tous les coûts? Parce que les externalités, il y en a dans toutes les activités au quotidien.
Oui, mais ça se fait, là, Vincent, ce que tu viens de dire là, pour des trucs de laideur ou je ne sais pas quoi, surtout dans tout ce qui est jugé comme...
D'accord.
Ça, c'est très drôle. Là, au Québec, on fait des trucs patrimoniaux avec des affaires construites en 1950. Tu n'as pas le droit de mettre une peinture qui n'est pas en fer forgé ta maison ne date pas de telle date. Puis, Chris, c'est ma maison, on va faire ce que je veux.
Deux choses. Un, c'est pas toutes les externalités. Des fois, il y a des externalités que les résoudre est plus coûteux que l'externalité elle-même. Fait que des fois, c'est correct d'avoir des trous dans tes pantoufles. Je veux dire, c'est l'analogie que je me disais. Des fois, à un moment donné, tu ne t'achètes pas une nouvelle paire de pantoufles parce que t'es un petit peu usé ou quelque chose comme ça. C'est que, non, elle fonctionne encore. Elle fait 99% de la job qu'elle se posait faire. ben, tu acceptes un peu le coût relativement à l'alternative. Fait que d'une part, il ne faut pas exagérer le coût de l'externalité. La deuxième, c'est que ne faut pas que tu présumes aussi qu'elle est ingérable parce que l'externalité n'est pas si grosse que ça. Pense juste à quelqu'un qui construit une maison absolument médiocre, right? LED. Tu sais, quelqu'un là qui. Puis tu sais, j'ai grandi dans le quartier italien, là, puis ça, j'haïssais ça pour mourir. Tous les lions, puis le marbre partout. Puis... mais je peux te parier que ce que tu appellerais une externalité a été parfaitement internalisé par le fait que la personne qui a cette maison absolument hideuse n'est pas capable de la revendre, à moins qu'il baisse le prix. Fait qu'il faut vraiment que tu me convainques que la laideur n'est pas internalisée. Ouais. Si tout le monde haït ça, là. Il n'y a personne qui va vouloir l'acheter. Fait que le gars qui a construit l'aide, OK, fine, il y a du fun, puis les gens autour trouvent ça laide. Mais lui, après, quand il va vouloir quitter, il va payer son externalité. Donc, elle est internalisée, il la paye le coût.
Donc, ton critère esthétique, en plus, c'est qu'il y a une valeur temporelle là-dedans. Parce que quand tu te promènes dans certains secteurs, mettons de la ville, tu vas voir que okay, ça a été construit en 1975, là, toutes les maisons sont en briques roses ou vertes pâles. Et dans le temps, il était sûr que c'était beau. Là. Aujourd'hui, on se promène, on fait « Ouais, c'est spécial, hein, de la brique rose ou de la brique vert genre lime. » Mais eux autres, ils trouvaient ça beau. Mais moi, personnellement, quand je rentre dans un quartier où toutes les maisons sont pareilles, là, il y a une mode de ça maintenant, faire toutes des maisons pareilles, je trouve ça d'une laideur absolue. Mais il y a des gens à qui ça convient. Donc, c'est sur la base de critères absolument subjectifs comme ça, tu peux pas faire de... Ben, à mon avis, tu peux pas vraiment faire de réglementation pour ça. Là.
Non, effectivement, puis je suis vraiment, j'ai une opposition à ce genre de réglementation-là. Que c'est, puis en fait, souvent, ce que ça sert, il ne faut pas se le cacher, c'est que c'est une manière, parce que, tu sais, j'ai utilisé l'exemple des Italiens à Saint-Léonard, c'était pas anodin, parce que souvent, ce que certaines personnes aiment a une certaine corrélation avec leur origine culturelle. Mm-hmm. Fait que c'était quand même de concevoir une réglementation en fonction de ses caractéristiques culturelles, tu peux facilement freerider sur quelque chose d'un petit peu moins noble que la beauté absolue. C'est « j'aime pas les Italiens, je veux pas qu'ils soient dans mon quartier, mais je peux pas le dire comme ça. » Fait que je vais choisir la caractéristique qu'eux exhibent, donc une...
Ben, Vincent, j'ai un crise de bon exemple de ce que tu racontes mais ça, là.
La ségrégation résidentielle aux États-Unis, là, le redlining des quartiers pour exclure les Noirs de certaines zones, ça s'est fait exactement dans des critères comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait des caractéristiques culturelles que la communauté noire américaine exhibait. C'était des préférences que les gens avaient et qu'ils aimaient, trouvaient ça, eux, subjectivement beau. Mais après ça, tu avais des gens qui allaient aux assemblées de quartier. Ces affaires-là, c'est pas beau, ça dégrade le quartier. Puis tu te dis, OK, fine, peut-être que toi, tu trouves pas ça beau. Eux, A, trouvent ça beau. B, c'est-tu vraiment à cause que tu trouves pas ça beau ou c'est parce que tu veux pas les avoir comme voisins?
Ben, un exemple plus récent de ça, Vincent, c'est en Suisse. Vous souvenez-vous, il y a quelques années en Suisse, ils ont passé un genre de référendum, puis les Suisses ont voté contre l'instauration, ben, dans le fond, le fait qu'on permettait de construire des mosquées avec des minarets.
Ah oui!
Ben,
oui,
c'était l'argument principal, c'était encore une histoire esthétique. Là. Non, mais là, avec le bâtiment traditionnel suisse, là, on ne peut pas tolérer d'avoir des installations comme ça. Là. Ça défigure notre beau village, d'antan et pittoresque. Ouais. La réalité, c'est Christ, tu veux pas de. La réalité, c'est que tu ne voulais pas d'arabes et de musulmans. Là. Dis-le. Là.
Ben, écoute, oui, c'est exactement ça, mais en plus, il y a quelque chose de subtil là-dedans qui se passe. Parce que avant. Ce que tu viens de faire quand tu as cette politique d'État qui intervient, c'est que tu viens de subventionner le comportement d'un raciste. Implicitement, ce que tu ne réalises pas que tu viens de faire, c'est qu'avant, si tu étais raciste, là, puis le gars noir vient de dire « je vais t'acheter ta maison, je vais la crisser à terre, puis je vais construire mes trucs dessus que moi je trouve beau, puis toi tu trouves laid. » Bien, avant, si tu voulais refuser de lui vendre sur cette base-là, là, sur la base de la beauté,
il faut que tu le dises en pleine face.
Il faut que tu acceptes de refuser le prix qu'il t'offre. Right?
Exact.
Puis il faut que tu. En fait, l'exemple serait encore plus approprié si j'avais. Ça existe des réglementations même, où j'ai le droit de m'objecter à la vente qu'une autre personne fait. Parce que tu as des places dans le monde où tu peux t'objecter à des constructions ou à des ventes dans le quartier. En fait, aux États-Unis, tu avais ça pendant longtemps, c'était des covenants. Donc, tu n'avais pas le droit de vendre à certaines personnes que ça disait ça. La Cour suprême a dit non, tu n'as pas le droit de. de renier ton droit contractuel.
Doug Morey a sorti un exemple de même cette semaine.
Mais imagine là, que ce que tu
non,
fais...
Non, mais je veux dire, il s'est fait refuser d'aller visiter une maison parce qu'il était à Radio X. Jusqu'à quel point c'est vrai ou pas, je sais pas, mais quand je l'ai vu, je suis parti à rire, j'ai dit... Ben, il l'exprime via « je refuse la possibilité que tu achètes ma maison ». C'est correct, là, c'est ce qu'on veut, là, mais,
non, mais si cette personne-là ça existe. Mais si cette personne-là n'aime vraiment pas Doug Morey, là, fine. Je peux imaginer des gens qui ne l'aiment pas. Je pense qu'il y a un site web qui est dédié à détester Dominique Morey. Mais quelqu'un qui ne l'aime pas peut refuser
exact. De
lui vendre. Mais c'est parce que sa prémisse, c'est que c'est plus important pour moi d'avoir mon principe
que
d'avoir l'argent de la vente. Mais là,
ça existe pour Doug Morey aujourd'hui, ça existait avec les Noirs dans le temps, ça existait avec les Juifs, ouais. Ça existait aussi avec toutes
exactement.
Sortes de races.
Là. Mais là, imagine que ce qui se passe, c'est que tu as la réglementation qui existe. Puis ce que tu peux faire, c'est t'objecter à la vente d'une autre personne. Puis là, dire, je ne veux pas que cette personne-là soit là. Là, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de me donner un pouvoir d'exercer mes préférences. Où est-ce que mes préférences? Là, tu m'as réduit le coût d'exercer la préférence ou tu m'as même donné un bénéfice, ça serait plus approprié. Tu m'as donné un bénéfice d'exercer ma préférence via la réglementation. Mais dans ce cas-ci, je n'ai pas à payer les coûts. Puis celui qui perd, c'est celui qui était prêt à vendre à la personne qui va construire. Celui qui était prêt à vendre à la personne qui va construire une maison hideuse. Puis celui qui voulait acheter la maison puis qui l'aimait. Bien, ça, là, les gens ne réalisent pas, mais souvent, l'État, c'est pour ça que quand on en parlait, quand on parlait de l'épisode de la discrimination, l'État est plus souvent un habilitateur de la discrimination qui en est un répudiant. Je ne sais pas si ce serait pas le bon mot, mais il est plus capable de la créer que de la répudier.
Oui, que de l'endiguer.
Oui, puis on ne se cachera pas non plus. Les histoires de zonage, plus le zonage est complexe, plus ça... Moi, j'ai parlé des exemples un peu banaux de mon côté, mais pensez au fait qu'il y a plusieurs gens qui ont des terres agricoles, par exemple, où ils ont un certain commerce. Moi, j'ai une histoire de quelqu'un qui avait un terrain de golf sur sa maison qui était zone agricole, donc... Il avait le droit d'avoir la maison, il avait le droit d'avoir le commerce, mais il n'avait pas le droit de virer ça complètement résidentiel, donc de prendre le petit terrain de golf, puis vendre ça à un promoteur immobilier qui ferait 8-9 maisons avec ça, par exemple. Il s'est battu pendant plusieurs années pour dire à la ville, je ne dirais pas où, pour l'anonymat évidemment, pour dire « je veux dézoner, je veux que ça devienne résidentiel, je vois le quartier résidentiel s'approcher de nous, on est quasiment rendu dans le quartier résidentiel », puis il voulait passer à la caisse, carrément. Il y avait ce terrain-là, puis le terrain de golf n'était pas si rentable que ça, donc il voulait juste passer à la caisse. Il a essayé, jamais été capable. Il a mis la maison en vente une couple de fois, difficile à vendre pour les mêmes raisons que le terrain de golf n'était pas rentable. Puis à un moment donné, il y a un gars qui est venu faire une offre, mais comme un peu inattendue, puis plus élevée que prévu. Il se doutait qu'il y avait un peu anguille sous roche, mais il l'a accepté parce qu'il se dit « je finis par me débarrasser de mon problème ». Quelques semaines après, le dézonage se faisait. Tu es vraiment dans une position où est-ce que tu dis « attends un peu, là, il y a un fonctionnaire slash politicien quelque part qui avait un pouvoir absolu sur ce qui allait se faire là-dessus ». Puis éventuellement, le gars qui fait le profit, c'est pas celui qui a eu le terrain pendant 10 ans, c'est celui qui avait la connexion politique pour le dézonage. Puis il y a beaucoup de gens au Québec qui se sont enrichis avec le dézonage. Puis ça, on n'a vraiment pas idée jusqu'à quel point que c'est vrai. Des histoires comme ça, il y en existe dans toutes les municipalités, dans toutes les régions. Mm-hmm. Dans le coin de Montréal, c'est encore pire, évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de dézonage dans ce coin-là. C'était des belles terres agricoles, puis là, on sait ce que c'est devenu. Là, tous les quartiers sur la rive sud se sont développés au fil du temps. Il y a des gens qui sont passés à la caisse. Puis ce qui a permis ça, c'est les règlements de zonage du gouvernement, évidemment.
Ouais. Ouais, ben écoute, pendant que tu disais ça, là, ça m'a rappelé une histoire, puis je l'ai retrouvée il y a comme 2 secondes. C'est là, je vais avoir tous les détails tout croche parce que ça fait longtemps que je l'avais vu, mais il y avait un gars à New York en 1900 qui s'appelait Philip Payton, qui était un Afro-Américain. Puis il est connu comme le père de Harlem. Puis lui, ce qu'il avait fait, c'est que c'était un entrepreneur. Puis chaque fois que lui, ce qu'il avait réalisé, c'était que pour être en ville, les Noirs américains étaient prêts à payer un petit peu plus cher sur les loyers. Et lui, ce qu'il s'est dit, c'est s'ils sont prêts à payer plus cher, puis que des gens veulent les discriminer sur la base de la couleur, bien, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des bâtiments au complet, puis je vais les louer au plus haut loyer. Puis après ça, il a décidé d'être entrepreneur. Puis c'est lui, en fait, qui a permis à Harlem de devenir un endroit où il y avait beaucoup plus d'Afro-Américains qu'autrement il y en aurait eu. C'est parce que ce qu'il faisait, c'était que chaque fois que quelqu'un discriminait, lui, il venait acheter un bâtiment, puis il venait, à toute fin pratique, réussir à louer aux autres locataires.
Ce gars-là était blanc, mais il était noir.
Il faisait ça comme ça. C'est un Afro-Américain, comme j'avais dit au début. Puis une des choses, l'autre chose qu'il faisait, c'était que les propriétaires qui étaient blancs, eux, ce qu'ils voyaient, c'est que ce gars-là, il faisait ça. Fait que là, il se disait, ben là, attends une minute, il faudrait que j'augmente aussi le loyer. Parce que maintenant, il y a plein de gens qui veulent venir dans le quartier. Et je pourrais aussi augmenter les loyers sur les gens blancs aussi. Fait que eux autres arrêtaient de discriminer contre les Noirs. Ils se mettaient à offrir le même frais indépendamment. Puis je vais partager le lien ici, là, parce que je viens de le trouver, puis on pourra le partager avec les auditeurs. Mais Peyton était... En fait, l'exemple, en gros, c'est que il n'y avait pas de restriction sur le journal à cette époque-là. Le gars, tout ce qu'il faisait, c'était qu'il rentrait avec son capital, puis il réussissait, par vertu de la compétition, à éliminer plein de formes de discrimination dans le logement pour les Afro-Américains, parce qu'il faisait payer aux racistes le coût d'être raciste. C'est-à-dire que, oh, tu n'es pas prêt à vendre pour un Noir qui est prêt à t'offrir plus d'argent? Ben, écoute, regarde ce que je vais faire. Moi, je vais aller voir un autre locataire à côté. Right? Puis elle, c'est prête à me le vendre pour moins cher que toi. Je vais le louer quand même au même loyer à l'autre gars qui veut rentrer. Mais là, pourquoi tu as offert ça? Elle a accepté. Puis, ben écoute, tu avais juste à accepter quand moi, je te l'ai offert. Puis il faisait ça de même. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu as eu un inflow de gens dans la région, dans ce quartier-là. Puis cette histoire-là, je ne sais pas pourquoi, quand tu l'as conté, ça m'a rappelé ce gars-là. Mais ça te montre que dans un marché compétitif, là, c'est dur avec des entrepreneurs qui sont vraiment alertes, surtout. Là. C'est vraiment difficile d'être discriminé parce que, my God, que tu payes cher pour des choses qui ne sont pas liées à des variables économiques. Si tu discrimines juste des trucs qui n'ont aucune pertinence économique, tu vas payer cher en maudit. Puis ce gars-là, il faisait payer cher aux racistes le fait d'être raciste.
C'est ça qui devient de valeur. C'est qu'à un moment donné, je ne pense pas qu'on ait comme valeur que les entrepreneurs qui sont là pour faire la palette puis qui peuvent faire la palette, c'est juste ceux-là qui ont les connexions politiques. Mais le problème, c'est qu'au Québec, on semble aimer ça. On semble vraiment toujours aller dans cette direction-là. Les entrepreneurs qui ont des connexions politiques, c'est l'enfer. Comment ils font de l'argent trop facilement, puis genre vraiment trop facilement. Là. Alors que ceux-là qui n'en ont pas, peuvent faire de la bonne business, mais ça passe tout le temps dans l'oubli, en tout de l'ombre un peu, des choses comme ça. Puis ça date pas de v'là 10 ans ou de v'là 5 ans. J'ai l'impression que au Québec, ça date vraiment des années 70, peut-être même jusqu'à des années 60. Mais les connexions politiques ont toujours été un prérequis pour faire de la bonne business. Là, on parle des vrais bons deals d'affaires. Là,
c'est pour ça qu'il y a autant d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs qui aiment le gros gouvernement. Tu te dis, donc, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là, d'être un entrepreneur et d'avoir un discours borderline QS? Là, tu te dis, il me semble que ça fait. Ouais, c'est ça. Tu te dis, il me semble que ça fait pas de sens. Ben oui, ça fait du sens quand tu comprends la mécanique de comment on peut se coller après le pouvoir puis finalement en ramasser les fruits.
Ouais, fait que là, Amazon, on l'amène-tu au Québec là, demain matin? Là, ils veulent s'établir à Saint-Georges-de-Beauce. Est-ce qu'on dit oui?
Mais c'est drôle parce que
ça va jouer. Attends, fuck you. C'est pas à nous de dire ça. C'est, si quelqu'un à Saint-Georges-de-Beauce décide de vendre son terrain à Amazon, c'est qui a le droit? Je m'excuse, là, mais sur quelle prémisse tu aurais le droit de dire non? Si Amazon, ça ne fonctionne pas après avoir acheté le terrain à cette personne-là qui vend, c'est quoi qu'Amazon va faire? Elle va perdre l'argent, puis elle va fermer la shop, puis c'est son problème, c'est pas le problème d'un politicien local. Mais si, mettons, tu penses vraiment qu'il y a des effets négatifs, là, parce qu'à Saint-Georges-de-Beauce, ce serait trop un gros joueur. Fine! Qu'est-ce qui fait que Saint-Georges-de-Beauce a moins de demandes pour des travailleurs dans la région? Ben, peut-être que c'est parce qu'il y a des restrictions sur l'entrepreneuriat, sur des nouvelles firmes, que des nouvelles petites firmes ne peuvent pas facilement demander des travailleurs ou parce que tu augmentes leur coût à eux. parce que la réglementation tombe disproportionnellement sur les nouvelles petites entreprises qui essayent de percer. Donc, le coût d'un employé additionnel pour eux est beaucoup plus élevé que le coût d'un employé additionnel pour Amazon, que donc leur courbe de demande à eux est différente. As-tu pensé à toutes ces choses-là? Peut-être que c'est l'État qui cause le problème. Puis, il y a un graphique, je pense que ça devrait être un sujet de notre podcast que je faisais quand j'étais avec l'Institut, puis je faisais mes présentations plus générales, là, que ce n'était pas des trucs de recherche. J'avais comme les quatre étapes du raisonnement de bonne politique publique. C'était A, est-ce que vraiment c'est un problème? B, il faut que tu te poses la question. Est-ce que vraiment...
Tu disais ça dans la vidéo avec quand tu parlais que tu avais fait une apparition avec mon Marquette. Là, je suis allé le revoir. Puis Mané, tu t'en parles de ça dedans. Là, justement, les quatre étapes. Là.
Les quatre étapes du raisonnement des politiques publiques. Mais j'avais un graphique qui était fait. Il était fait par un vrai designer qui est un de mes amis à moi, Olivier Ballou, qui travaille pour American Enterprise.
C'est Olivier.
Ah, ben, en fait, tu connais Olivier?
Un petit peu.
Ah, pas, ce gars-là, en fait, vraiment, le gars, il fait comme 6 pieds 5. OK? Le gars, à chaque fois que je le vois, je suis pas grand comme gars physiquement. Je pense que je fais 5'8 ou 5'9. Lui, à côté de lui, là, je le regarde. Puis je suis toujours, on se parle, puis je suis même. Là, je le regarde. Salut Olivier! j'ai le cou tordu chaque fois que je parle. Mais lui, c'est vraiment un artiste, là, vraiment. Puis il m'avait fait les quatre étapes du raisonnement. C'était step one, est-ce que c'est vraiment un problème? Mm-hmm. Step deux, est-ce que le gouvernement a fait quelque chose qui fait que c'est un problème? Right? Il y a peut-être des fois qu'il y a des choses que tu as faites qui étaient contre-productives, puis juste enlever ces choses contre-productives réglerait le problème. Step trois, est-ce que l'État est vraiment capable de régler le problème. Step 4, c'est correct, l'État peut intervenir.
C'est à toutes ces étapes. On ne se rend pas souvent à 4, je pense.
Ben, ça arrive, tu sais, des fois. Puis, en fait, ce raisonnement-là, c'est le step 4. C'est là que tu arrives, tu sais, aux failles du marché que les gens vont souvent souligner. Les asymétries d'information, les biens publics, les externalités, la pollution étant une externalité, toutes ces espèces de justifications économiques pour l'État, que là, l'État vraiment, lorsqu'il intervient, augmente le bien-être. Toutes ces justifications-là, c'est que tu t'es rendu à la quatrième étape. C'est que tu t'es rendu, tu as fait, OK, step one, step deux, step trois. OK, là, il y a vraiment une justification conséquentialiste, utilitaire, que là, l'État peut augmenter.
Il n'y a aucun politicien qui connaisse ta grille-là.
Non, il n'y a personne qui connaisse cette grille-là. Puis l'affaire, c'est que souvent, les gens vont juste partir, puis généralement, ça arrête à la première étape. En fait, le meilleur exemple, c'est quand je parle d'immigration. Tout le monde parle de la prémisse, l'immigration, il y a des problèmes avec ça. Non, je te refuse la première étape. Là. Dès le début, là, la conversation peut se terminer ici, c'est pas un problème. Là, mettons que je dis que c'est un problème, as-tu des solutions, tu sais, comme de base?
Bon, OK, bien, c'est l'immigration, Vincent, cause des problèmes avec la francisation. On parle du français.
Non, pas vraiment. Écoute, j'ai un article scientifique qui montre que ce qui se passe, c'est que les immigrants, en fait...
les immigrants, Vincent, ils volent nos jobs.
Pas vrai, parce que les immigrants déplacent la courbe d'offre, effectivement.
Okay. C'est dur de passer à la première étape.
Mais ils déplacent aussi la courbe de demande. Fait qu'il y a plus de jobs qui sont offerts au net. Donc, ça ne passe pas la première étape de la logique.
On s'entend-tu que 95% de la bullshit politique qu'on entend à TV ne passe pas la première étape?
Oui. C'est parce que la bullshit...
Pour 95, moi, j'irais plus vers 97, 98.
Mais c'est parce que la bullshit politique, elle répond à une autre grille d'analyse. La grille d'analyse est la suivante. Est-ce que ce problème-là, qui n'est pas un vrai problème, et tout le monde ici autour de la table le sait, est-ce que c'est payant de proposer une solution à ce faux problème-là d'un point de vue politique? Si la réponse est oui, et si en plus ça me permet d'aller dérouler un ruban puis de le couper ou de faire une pelletée de terre, c'est sûr qu'on le fait.
Ben écoute, tu vois, il y a deux étapes en fait dans ton raisonnement.
Oui, c'est ça.
C'est est-ce que je peux gagner des votes? OK, go.
Oui, oui.
Ça te montre. Mais en fait, il y a une autre affaire que je parle souvent avec les gens. J'ai dit, tu sais, quand tu dis que le gouvernement est capable de faire ça, c'est parce que c'est facile pour les gouvernements de régler des problèmes à une variable. C'est super facile. Tu dis, le gouvernement devrait réduire la mortalité. Effectivement, demain matin, j'ai juste empêché à tout le monde d'acheter du sel. Puis crois-moi, demain matin, je vais réduire plein de formes de mortalité si personne ne peut saler sa bouffe. Alors, le problème, c'est, tu veux-tu vraiment vivre dans un monde avec pas de sel? Je veux dire,
on vient tout en bacon avec toi.
Ouais, généralement. Ben, le steak aussi, les œufs, l'alcool, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est que les vrais problèmes que les gens ont, c'est des problèmes à multiples variables où est-ce que tu dois faire un trade-off. Puis là, ça, c'est super difficile parce qu'il faut que tu évalues qu'est-ce que toi, tu as comme contrainte, qu'est-ce que tu as comme coût relatif, c'est quoi tes préférences, étant donné les coûts. Toutes ces choses-là, il faut que tu les prennes en considération. Puis c'est difficile pour un individu de faire ça au quotidien, avec tout le fait que lui est conscient de ce... En fait, il est plus conscient de son propre intérêt qu'un politicien. Le politicien, il n'a pas ce gear set-là. Fait que lui, régler un problème à multiples variables, c'est vraiment pénible. En fait, c'est pas pénible. Ça ne l'intéresse pas. Mais il n'y a personne dans leur vie au quotidien qui ont des problèmes à une seule variable. Il n'y a personne qui dirait « Ah, tout ce que j'ai à faire, c'est de gagner plus de revenus. » Vous voyez, il n'y a personne qui pense comme ça. Il n'y a personne qui dit « J'ai juste besoin de plus de revenus. » Non, c'est que si j'ai plus de revenus, il faut que je sacrifie du loisir. Si j'ai plus de revenus, il faut que j'aille à l'école plus longtemps. Il faut que je prenne un risque peut-être que moi, je ne finisse pas mon diplôme. Il faut que je fasse X ou Y. Il faut que je fasse des trade-offs. Hein? C'est-à-dire que j'ai deux variables à considérer. Puis c'est pas vrai que c'est juste deux. Là. C'est... Un univers infini de choix.
Ben oui, il faut que je pense à si j'annonce à ma blonde que je retourne à l'école pendant 3 ans, est-ce que l'idée d'avoir un plus gros salaire après va compenser le fait qu'on va avoir une vie de misère pendant 3 ans ou elle va me crisser là?
Mais ça, là, la vie au quotidien, les choix économiques, c'est des choix multivariables, vraiment complets. L'univers politique, c'est le plus possible élimine des variables.
N'importe qui a de magasiner pour s'acheter une maison comprend ce que tu veux dire par décision multivariable. Je veux dire, il y a tellement... Tu sais, on vient de faire l'exercice, puis moi puis ma femme, on est des gens extrêmement simples. Tu sais, on n'est pas extravagants, on n'a pas des gros critères, mais tu as quand même une couple de critères quand tu te magasines une maison. Tu sais, tu vas arriver... Nous autres, par exemple, on voulait un garage absolument. On voulait quelque chose qui était prêt à habiter, donc pas trop de rénovation, pas trop de peinture, tu sais, de quoi qui était vivable rapidement.
Pour fitter avec tes skills rénovatoires.
Oui, puis le temps. Je l'ai souvent dit, je valorise plus le temps que l'argent dans mon cas. Ça fait quand même assez longtemps. Fait que le temps est toujours extrêmement important. Fait qu'on s'est ramassé. Finalement, on a trouvé une maison qui était parfaite. Pour ce qu'on voulait, elle cochait tous nos critères, mais pour bien des gens, ils n'auraient jamais acheté cette maison-là parce que c'était 5 500 pieds carrés de terrain avec une grosse maison dessus. Tu sais, tu, on se dit, tu ne tombais pas un gros backyard. Ouais, mais j'ai concédé ça pour avoir le garage. J'ai concédé ça pour aller chercher. Il y en avait une autre qui avait un meilleur backyard, mais c'était 150 000 plus cher. Fait que là, un moment donné, tu es là, tu te dis, les deux me plaisent. Le 150 000, je l'ai, pas de problème.
Ce que tu t'es dit, c'est est-ce que je préfère le 150 000
exact.
Que le backyard? C'est ça, je crois.
Le backyard a pris le bord, tu sais.
Ben oui, si c'était ça la seule dimension de différence entre les deux, tout le reste était plus ou moins égal. Là,
quand je dis qu'on est des gens simples, c'est qu'on finit par réduire notre problème à une décision unidimensionnelle, ce qui nous permet de prendre une décision rapidement. Sauf qu'on a cette capacité-là d'éliminer des variables pour qu'il y en ait juste une ou deux à la fin, puis clac, on prend la décision.
Mais même quelle variable tu élimines dépend largement des coûts de faire un choix en particulier. Là.
Exactement, mais pour arriver à la décision finale, c'est tout qu'un algorithme que tu as passé au travers de ta tête.
Là, la localisation, le prix, la grandeur.
Tu t'en vas sur Centris, sur du proprio, tu regardes un inventaire de 400 maisons, premier tri, t'en reste une vingtaine, après ça, deuxième tri, t'en reste une dizaine, troisième tri, t'en reste 5-6, puis finalement, tu prends 4 rendez-vous pour aller visiter des maisons, t'en choisis une là-dedans. Là. L'algorithme de décision est vraiment impressionnant. Fait qu'imaginez c'est quoi pour un individu relativement simple d'acheter une maison, qu'est-ce que ça peut représenter. Maintenant, mettez-vous dans le contexte d'un gouvernement qui doit planifier une économie. Oubliez ça, là.
Mais pour que les gens voient comment c'est presque impossible pour le gouvernement de faire ce choix-là pour toi, là, on va prendre ton revenu, ta situation, ton nombre d'enfants, même conjointe, OK?
Oui.
Vous voyez, dans l'extrême.
Tu
fais juste changer toi. C'est la seule chose qu'on va changer. Je te parie 100 piastres que je mets Frank dans ta peau avec tout le reste pareil. Là. Pas que je suis en train de dire à Frank de prendre ta blonde. C'est ça que je suis en train de dire. Là.
Mais ils ne choisiront pas ma maison qu'on a choisie.
Je suis sûr que Frank ne choisira pas ta maison.
C'est sûr que non.
Juste parce que Frank a juste un, une courbe d'utilité qui est différente de toi, sa fonction d'utilité est différente.
Ben, t'sais, mettons que moi, par exemple, j'accorderais une plus grande valeur à mon temps de déplacement que Yann ou une moins grosse valeur, ben moi, j'aurais peut-être dit, ouais, mais moi, ma maison, c'est important qu'elle soit plus proche des lieux où je me déplace. Et alors que Yann pourrait dire, ben moi, dans l'auto, j'écoute des podcasts, des livres audio, je m'en fous.
Exact, quand même.
Oui. Mais c'est ça, tu vois, c'est même, j'ai mis les mêmes variables pour tout le monde, sauf une chose. La différence de. Parce que là, la manière dont ça serait dit en économie, c'est que la courbe d'utilité d'Yann, donc sa volonté de substituer une caractéristique pour l'autre, est complètement différente de Frank. Mais Frank a le même revenu, le même environnement de contraintes, les mêmes prix. C'est juste que les deux voient l'utilité d'une chose, une caractéristique relativement à l'autre, complètement différemment. Fait qu'ils font des choix complètement différents. Frank aurait peut-être dit. Je vais la prendre. Je préfère une grosse cour. Ça ne me dérange pas d'être plus loin. Ou peu importe c'est quoi, il aurait fait un choix complètement différent à cause de ça. La prémisse que l'État est capable de faire ce choix-là, c'est parce que tu ne peux pas agréger toute cette information-là. Il y a tellement de choses, en fait, dans le choix que tu ne peux même pas écrire dans un livre. Tu sais, tu peux pas. Il y a des connaissances qu'on a qui sont purement tacites. As-tu, par exemple, regarde juste, y a-tu un livre d'école sur comment conduire un vélo?
Non.
Mais pourtant, comment tu sais ton vélo, c'est une connaissance tacite, tu peux pas le codifier, tu peux pas l'enseigner par des livres ou par une règle sociale, mais il y a une information qui est tacite sur comment tu l'utilises. Comment tu attrapes une balle de baseball, par exemple? Tu peux faire un calcul de vélocité avec la force initiale, la parabole, tu peux faire tout ça, mais alors qu'une règle heuristique qui peut pas vraiment être écrite, mais qui fait du sens que tu déplaces ta tête, mais que tu déplaces ton corps sans déplacer ta tête, que tu gardes le même angle avec la balle tout le temps, que c'est la seule manière que tu peux attraper. Ce n'est pas quelque chose que tu peux codifier. La réalité, c'est qu'il y a plein d'informations comme ça qui ne sont pas, tu ne peux pas inscrire dans des lois, dans des codes. Et la quantité d'informations tacites qui existent dans l'univers est tellement large que l'État n'est pas même capable de le faire. Ajoute à ça le fait que ces informations tacites peuvent changer rapidement. Bon, là, les armes du vélo et de la balle de baseball ne fonctionnent pas. Mais il y a des choses qui sont tacites. Par exemple, tu sais, ça, c'est un exemple que Mises utilisait, qui est un des plus grands économistes du 20e siècle, selon moi. Il dit, ben, techniquement, c'est possible de construire une voie ferrée avec de l'acier et avec du titanium ou de l'or. Maintenant, lequel tu vas décider d'utiliser? Ben, tu vas y aller avec celui qui te permet la. Titanium, c'est sûr que tu n'as aucun accident. Tu n'as aucun bris, c'est super durable. Yeah! Mais peut-être que le coût, la différence de coût, parce que tu utilises des ressources, ne vaut pas la peine. Que pour le gain de sécurité que tu as, le gain de qualité, ça ne vaut pas la peine. Mais qu'est-ce qui arrive si demain matin, disons, le titanium devient comme magiquement, tu peux l'inventer comme ça. Right? Tu fais une baguette magique et ça a marché. Est-ce que c'est le même choix?
Ben regarde, les autoroutes de béton avec les autoroutes d'asphalte, ça donnait des ordres de grandeur que je me suis déjà fait dire, je vais être complètement dans le champ, mais peu importe. Mais c'était béton 5 fois plus durable, 3 fois plus coûteux, un genre d'ordre de grandeur. Fait que pour n'importe qui ne connaît pas trop la finance, il va dire ben, on devrait toujours prendre le béton. À ta peu. Pourquoi le béton est devenu plus populaire dans les 10, 15, 20 dernières années qu'avant? Regardez les taux d'intérêt. À un taux d'intérêt à 2 % le béton gagne à plate couture sur l'asphalte. Par contre, à un taux d'intérêt à 15 % 12 % c'est pas la même game. Là. C'est vraiment pas la même game.
Imagine-toi l'ingénieur qui dit ça. Là. L'ingénieur qui se fait dire ça. Au moment présent, quand le boss dit « je veux construire avec du béton », dans la décision de construire avec le béton, il y a une connaissance tacite qui est dedans. C'est-à-dire l'horizon temporel du boss et la valeur du temps pour lui, parce que c'est ça le taux d'intérêt, là, les gens devraient comprendre que le taux d'intérêt, là, arrêtez de penser que c'est autre chose, c'est juste le prix du temps. C'est ça que c'est un taux d'intérêt. C'est le prix de la consommation maintenant pour la consommation future, that's it. C'est juste le coût du temps. That's what an interest rate is. Le boss, quand il t'a dit ça, qu'il veut construire comme ça, ce qu'il t'a donné, c'est toute l'information tacite sur les taux d'intérêt. Si, mettons, le taux d'intérêt change, le choix va changer. Mais comment tu codifies ça? Comment tu détermines ça? Puis, mettons que ce n'est pas juste la question, tu sais, de la route. Ça peut être aussi à quelle proportion on utilise, par exemple, les canaux pour envoyer des trucs par bateau. Si, mettons, la route est meilleure, maintenant, de meilleure qualité, peut-être que moi, comme camionneur, je préfère utiliser plus par camion parce que les camions s'endommagent moins, ils durent plus longtemps, puis c'est marginalement moins coûteux d'envoyer un peu plus de volume sur l'autoroute. Comment est-ce qu'un bureaucrate peut codifier cette information-là? En fait, même les firmes ont de la difficulté à le codifier en avance. C'est uniquement quand il y a le changement dans les contraintes, puis qu'il y a juste quelqu'un qui observe ou quelqu'un qui découvre par accident que là, les gens corrigent leur comportement parce qu'ils voient le 5 $ ou le 10 $.
Écoute, il y a eu un changement de loi dans le camionnage il y a quelques temps au niveau des logbooks. On passait au logbook électronique, si je ne me trompe pas. 10 heures par jour maximum, 70 heures semaine, quelque chose comme ça. Là. Je sais qu'il y a plein de camionneurs qui doivent écouter, puis j'ai probablement pas les bons chiffres, mais peu importe. Ce que des gars dans le camionnage m'avaient dit, ça allait augmenter de 15 à 20 % la demande de camionneurs, ces changements-là dans les logbooks, parce que tout le monde, quand on avait des logbooks manuels, les gens crossaient le logbook, mais là, à cette heure, tu peux plus. Tu peux juste pas crosser le logbook. Fait que, un de mes camionneurs, il a dormi dans son truck à 15 minutes de sa maison à un moment donné. Tu sais, je veux dire, il pouvait pas physiquement amener le truck à la maison parce que le logbook était busté. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça, ça a des impacts, puis c'est logistique, là, des affaires mm-hmm. comme ça.
Mais regarde, c'est drôle parce qu'il y a un excellent exemple de ce que tu viens de décrire. Les premiers containers. Donc, les containers là, en métal, les gens ne savent pas à quel point c'est une invention incroyable. C'est la chose qui... la plus grande invention du 20e siècle, c'est le container.
Pourtant, c'est simple.
C'est super simple. Mais le gars qui a pris ça la première fois avec le gars qui s'appelle Ian McLean, je pense, j'oublie le prénom, mais quand il a inventé
le gars qui faisait Gandalf, ça, Ian McLean?
Non, Ian McKellen, ça.
OK, McKellen.
Jesus Christ. Il y a eu un puzzle pendant longtemps en économie sur pourquoi, après l'invention du container, il n'y a pas l'air d'avoir eu d'effet sur le prix de le freight rate, donc le coût d'envoyer une tonne de cargaison. Mais ce que les gens oublient de souligner, c'est que la vertu du container, ce n'était pas le fait que c'était moins coûteux de le mettre sur un bateau, c'est que c'est moins coûteux de le décharger d'un bateau. C'était bien plus facile parce que là, tu augmentais la vitesse, tu réduisais les turnover rates dans les ports. Donc, c'est plus rapide de sortir des affaires.
C'est le volume qui a dû changer plus que le prix.
Exactement. Fait que tu as eu une explosion du volume parce que ce que tu as fait, c'est que tu as réduit les coûts de faire une transaction. Il y a plein de gens qui, avant, étant donné le coût de devoir obtenir le container, parce que tu avais des coûts pour d'autres personnes dans le secteur de l'économie que tu ne voyais pas dans le prix directement du container, ce que tu voyais, c'était que à ce prix-là, tu avais... En fait, excuse-moi. Étant donné la demande, étant donné la quantité, étant donné la demande et l'offre, tu avais ce prix-là. Mais ce qu'il faut que tu réalises, c'est que la demande est une fonction d'une multitude de choses, pas juste... La quantité demandée n'est pas juste une fonction d'une multitude de choses, dont d'autres coûts, comme par exemple le coût de décharger, le coût de faire un contrat, le temps d'attendre. Parce que pour demander quelque chose, c'est pas juste le fait que tu payes pour l'avoir, c'est combien de temps je vais devoir attendre pour l'avoir? Est-ce qu'il y a une chance que ça devienne avarié par le temps que je l'obtienne? Ouais. Si tu me réduis tous ces autres coûts-là, ben, si tu les réduis plus, peut-être que je vais augmenter ma demande tellement qu'au net, c'est possible qu'il y ait... Ça voudrait dire que dans le mathématiquement, là, pour ceux qui sont gosseux, c'est que tu aurais une fonction implicite où tu as une certaine récursion à l'intérieur de la fonction. C'est ça que ça voudrait dire. Les gens seraient prêts à dire « OK, regarde, je sais que ce que je fais, ça va augmenter le prix, mais les autres bénéfices que j'ai sont tellement grands que je m'en fous. Ça, c'est super, mais comment est-ce qu'un bureaucrate aurait pu savoir ça? Parce que le container, c'est l'invention la plus à regarder, là. En fait, les gens passent à côté du container et c'est anodin. Anodin. Il n'y a personne qui pense à quel point être juste capable de prendre ce truc-là avec des espèces de trucs mécaniques, le déplacer, le déposer sur un camion, puis le camion est parti. C'est anodin aujourd'hui dans nos vies. Mais il n'y a aucun bureaucrate qui est capable de penser à ça. Puis il n'y a personne, même aujourd'hui, qui apprécie l'importance de ça. Es-tu capable d'imaginer l'entièreté des bénéfices? En fait, ça nous a pris à peu près 30 ans comme économiste de comprendre l'importance de ce que ça a eu, le container. Es-tu capable de penser que ceux qui passent leur vie à étudier ça ont pris tant de temps à le découvrir qu'un bureaucrate qui n'a aucun intérêt, que son revenu n'est pas associé du tout à ça, va être capable de le comprendre?
Non, non, c'est clair. Écoute, les gens trippent bien gros sur Amazon livrable en un jour sans comprendre l'intensité de la logistique en arrière de ça.
C'est magique, selon moi. Là. Ah oui. C'est incroyable.
C'est une réussite du capitalisme à la base. Là. Tout le monde va comprendre ça. Là. D'être capable d'acheter et de se faire livrer en 24 heures un bien, c'est incroyable quand vous y pensez. Là. Je veux dire, la quantité d'intervenants qu'il y a eu dans votre transaction que vous avez faite en bobette sur votre divan, là, c'est malade.
Ouais, mais c'est malade. En fait, dans plein de domaines fait, qu'on n'a pas vraiment dans plein de domaines qu'on n'a pas nécessairement pensé. Là. Fait juste checker hier, on a fait, là, pour ceux qui écoutent sur Patreon, on a fait un podcast avec un gars que tu connais qui s'appelle Kevin il n'y a pas longtemps, qui a écrit un livre par lui-même et qui l'a auto-édité avec Amazon. Mais tu sais, il n'y a pas si longtemps que ça, si tu voulais faire un livre, bon, là, il faut que tu fasses affaire avec une maison d'édition ou ben, tu peux le faire à compte d'auteur, mais là, tu fais tes trucs, tu reçois des épreuves. Tu sais, il y a tout un très long processus. Lui, il utilisait les outils d'Amazon, commandait via leur service de distribution. Deux jours après, il reçoit un démo du livre qu'il a fait. Ah, OK, non, tiens, ça ne marche pas, je vais corriger ça. Puis il fait tout le processus par lui-même. Tu vois, c'est des outils carrément incroyables pour qui révolutionnent un peu quand même le monde.
Ah, puis même écologiquement, c'est encore mieux parce que d'un coup, ton livre est publié sur Amazon. Ben, tant aussi longtemps que quelqu'un ne l'a pas commandé, il n'est pas imprimé.
En plus. Il n'y a pas de gestion d'inventaire.
Ben, regarde, la défense d'Amazon, les gens pensent souvent que la défense se fait. Encore une fois, je veux souligner que l'argument du Bonobson qu'on mentionnait tantôt peut être acceptable, mais dans ce cas-là, c'est que la cible, c'est pas Amazon, c'est les réglementations gouvernementales. Mais il faut réaliser qu'un des bénéfices qu'Amazon, mettons que je mets cette critique-là de côté, là, un des bénéfices qu'Amazon a, c'est pas juste pour les consommateurs, c'est pour des petits détaillants qui n'auraient jamais été capables de découler leurs produits autrement. J'ai un gars que j'aime beaucoup, qui est un économiste, mais c'est un gars qui vient de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Germinal Van. Qui est super intéressant, qui est un libéral classique d'Afrique. Il a un style un peu unique. Il est clairement... il est en marque contraste de tout le monde, mais il écrit quand même assez bien. Il écrit même très bien, en fait. Mais comme il n'est pas tant dans l'usuel, donc il détonne en toute fin pratique dans son contexte, il n'aurait jamais été capable de se trouver une maison d'édition qui aurait été capable de rejoindre autant de gens dans son contexte à lui, donc des gens que lui essaie de convaincre en Côte d'Ivoire d'adopter un plus grand libéralisme. Mais il écrit tous ses livres, en fait, il est rendu à son 19e, par les services d'auto-édition d'Amazon, et il en vend beaucoup. Il offre tous ces services-là et il les rend accessibles pour d'autres personnes. Donc, il est capable détaillant ici, de produire un service qu'il n'aurait pas pu autrement. Mais tu sais, quand les gens chignent après Amazon, ils oublient que combien de personnes ont été capables, tu sais, de toutes les petites librairies usagées, par exemple, qui sont maintenant capables d'écouler des livres que personne ne voyait avant. Moi, je veux dire, je pense juste à ma job, où est-ce que ce que je dois faire, c'est faire pratique acheter des livres, puis les consulter. Il y en a plein que je trouve qui me sont incroyablement utiles. J'aurais jamais pu les trouver à moins de faire, tu sais, 50 petites librairies usagées. Maintenant, j'ai quelqu'un qui est capable de les mettre en ligne et qui me les envoie. Oui, parce que
comme économiste en histoire économique, je veux dire, tu cherches des affaires des années 60, des années 30, des années 40, je veux pas. Là.
Des trucs bien obscurs que je pourrais juste trouver dans une bibliothèque, que je pourrais pas avoir pour moi-même, que je devrais tout le temps à la bibliothèque pour consulter. Là, je peux les avoir dans mes propres références. Mais imagine si quelqu'un juste qui vend des petits bracelets. Qui vend des équipements de téléphone ou qui vend des produits artistiques. Ce qu'on oublie, c'est à quel point Amazon a permis à des gens justement de créer des choses qu'avant, c'était impossible parce qu'il fallait que tu ouvres un brick and mortar, il fallait que tu fasses X ou Y. Puis mettons que tu veux chialer après Amazon, une autre critique d'Amazon qui me tape ses nerfs, c'est « Bien là, ils ne sont pas taxés. » Effectivement, à cause des règles fiscales, ils sont effectivement moins taxés. Mais as-tu pensé que peut-être le problème pour les détaillants qui sont brick and mortar, c'est peut-être que tu taxes trop? Je vais juste dire ça comme ça. Je vais juste dire ça. Hey,
j'ai rencontré un client à un moment donné qui a viré son garage en entrepôt Amazon. Puis lui, ce qu'il faisait, c'est il magasinait toujours des chinoiseries qu'il faisait venir en conteneur parce qu'il dit, si je fais venir un conteneur, j'ai une grosse économie d'échelle. Fait qu'il dit, des fois, c'est des lampes de poche, des fois, c'est des sleeping bags ou peu importe. Mais j'ai tout le temps un item à la fois. Fait que quand je trouve l'item avec le prix que je veux avoir puis que je sais que je vais avoir un bon différentiel en le vendant sur Amazon, je fais venir un conteneur de l'item choisi, je le fais venir dans mon garage, je stocke ça dans mon garage, puis là, je pars la roue de marketing. Boum, 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 je vends mon stock. Puis il dit, le gars était fonctionnaire fédéral, si je me rappelle bien. Puis quand je l'avais rencontré, il commençait à penser à lâcher sa job. Il dit, mon entrepôt Amazon, qui est mon garage, est rendu presque plus rentable que ma job de fonctionnaire fédéral.
Mais Excel, encore une fois, ce que tu es en train de me dire, c'est imagine-toi, comment est-ce que ce fonctionnaire-là, qui est fonctionnaire, comment est-ce que comme fonctionnaire, il aurait pu découvrir cette information-là pour d'autres personnes? C'est-à-dire, le service qu'il produit, là, c'est un service d'arbitrage. Il faut qu'il trouve, lui, la manière de se spécialiser dans le traitement d'un prix dans une place, faire un prix à une autre place, et donc de déplacer des ressources de A vers B pour faire en sorte que le... Parce que ce que ça veut dire, c'est que si l'autre est capable de vendre si peu cher, puis que l'autre est prêt à payer plus cher, c'est que les quantités ne sont pas allouées vers qui les valorise le plus. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est spécialisé, il a pris du temps, de l'énergie, des ressources pour figurer ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait la pièce dans ce cas-là. C'est lui que son incitation est alignée avec la découverte profitable et l'exploitation profitable de cette information-là. Mais lui, s'il avait été comme bureaucrate, ça aurait été quoi son profit? Le profit social? Ben, il y en aurait eu un peu. Un sur la taille de la population. C'est sa share qu'il aurait eu, s'il distribuait également. C'est pas assez pour faire l'effort. Mais là, parce que c'est lui le claimant à son effort entrepreneurial, OK, d'accord, je suis intéressé. Ouais.
Mais de toute façon, il y a tout le temps un genre de paradoxe, un peu d'hypocrisie là, par rapport à ceux qui ont un discours anti-Amazon ou anti-Apple ou tout ce que tu veux. Je me souviens d'un article du Toronto Sun, je crois, il y a 3-4 ans, où il avait fait deux sondages différents qu'il mettait en parallèle, puis c'était très drôle. Il faudrait que j'essaie de retrouver ça. On doit pouvoir trouver ça sur Google. Là. C'était, ils sondaient les gens de ma génération sur, qu'est-ce qu'ils pensaient des grosses multinationales. Est-ce qu'ils payent trop assez d'impôts, trop d'impôts, etc. T'sais. Puis là, ben, bref, 75% des gens qui ont en bas de 35 ans pensaient que c'est des mauvais... comment ils appellent ça, citoyens corporatifs, c'est des gens, c'est des compagnies qui ne font pas leur juste part, etc., etc. Et en dessous, tu avais « Pour quelle entreprise rêvez-vous de travailler? » Et c'était toutes les mêmes que, dans le fond, la personne qui déteste Amazon, mais son rêve dans la vie, c'est travailler chez Apple, chez Google ou chez Amazon. Donc, je trouve ça que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à « Ah ouais, ils traitent mal leurs employés. » Ouais, ils traitent mal leurs employés, mais quand ils s'installent quelque part, ils siphonnent la main-d'œuvre des autres entreprises.
T'sais. En fait, ce que tu dis, là, ça me fait penser, c'est le même argument que les gens faisaient contre les sweatshops. Là, ça a comme disparu des médias, ces affaires-là. Mais les gens qui haïssaient les sweatshops, « Ah, c'est pas correct, ils exploitent les travailleurs là-bas, les conditions sont atroces. » Puis, hey, ça m'énerve, cet argument-là. Parce que, d'une part, quand tu regardes les salaires dans les sweatshops.
Parce qu'on regarde ça avec nos yeux nord-américains. Là.
Exactement. Tu regardes ça de la perspective de nos choix à nous. Est-ce que notre choix, c'est qu'on peut aller travailler dans un bureau, dans un centre d'appel, climatisé, tout beau. Puis on ne regarde pas le pays d'origine dans lequel c'est. Mais tu regardes, par contre, les salaires, par exemple, dans les sweatshops. Puis tu les regardes relativement aux revenus dans le pays, c'est généralement des ordres de magnitude plus.
Oui, mais exemple, il y a des enfants de 8 ans, Vincent, qui travaillent dans les sweatshops.
Bien, je comprends, puis tu peux trouver ça pas correct moralement, mais si tu leur enlèves l'option...
Qu'est-ce qu'ils feraient?
T'as-tu amélioré la situation?
Je veux pas être plate, là, mais les Québécois, ils ont jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, faisaient des enfants en quantité industrielle pour avoir de la main-d'œuvre aussi. Là. Ouais. On va arrêter. Là. Nos ancêtres fermiers et cultivateurs, il y avait 12 enfants, c'est pas parce qu'ils aimaient ça, les enfants. Là. C'est parce qu'il fallait que quelqu'un ait bêché à terre. Là.
Soyons encore plus baveux un peu. Parce que ça, c'est là que j'haïs les do-gooders qui pensent vraiment pas à leur affaire. Tu es en train de me dire que parce que tu trouves que tu n'aimes pas ce que la personne pauvre fait, que tu n'aimes pas son set de choix tu veux lui enlever un choix. Tu réalises-tu à quel point tu es un sans-cœur pour que tu te sentes bien dans ta peau, dans ta petite moralité? Tu dis, non, 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 le gars pauvre parce qu'il fait quelque chose que j'aime pas, je vais lui enlever. Hé, hey, t'es vraiment un sans-cœur. Tu viens, ce gars-là, il est déjà dans une situation où est-ce que le choix, c'est pas comme s'il aimait travailler là, mais tu lui offres pas vraiment, tu lui enlèves un choix. T'es vraiment une ordure. Mais t'es la personne, les gens qui font ça, là, qui pensent qu'ils aident les pauvres en leur enlevant des options. Puis c'est la même chose d'ailleurs avec ceux qui parlent de la prostitution, qui disent, mais là, c'est un travail dénigrant, ils se font exploiter, fait que je vais rendre illégal leur job. T'es aides pas le grand. T'es aides vraiment
non,
pas.
Non, l'idée, c'est de les enlever des. Faut que tu les enlèves des mains des pimps, puis que tu rendes leur travail plus respectable.
Bien, il y a deux manières que si tu veux les aider. La première, premièrement, la raison que les. Parce que les gens pensent qu'ils vont dans ces pays-là parce que les salaires sont plus bas. Effectivement, les salaires sont plus bas, mais c'est aussi parce que la productivité est plus basse. Parce que ici, ce que tu peux faire, tu peux produire avec une tonne de machines des travailleurs qui sont hyper éduqués, qui sont des ingénieurs, des choses comme ça. Fait que qu'est-ce que tu fais quand tu produis, mettons, des T-shirts ici? Tu pourrais le faire, mais ton mix de capital-travail serait vraiment plus vers le capital. Là, tu peux utiliser dans un autre pays un mix capital-travail qui est différent. On utilise plus de travail, mais tu choisis, par exemple, dans ce cas-là, c'est que les salaires sont plus bas. Mais l'affaire, c'est que les deux méthodes de production, tu prends la plus cheap des deux. Mais si tu augmentes, si tu forces, mettons, de payer plus cher ces gens-là, plus cher que leur productivité, bien, qu'est-ce qui va se passer? Le capital, les gens vont se déplacer vers des méthodes plus capital intensive. C'est pour ça, par exemple, que tu vois qu'au Canada, les plus grands défenseurs de boycotter les sweatshops ou des choses comme ça, c'est des syndicats. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Bien, éliminer la compétition des travailleurs du Vietnam ou de la Chine, oui. Ça veut dire que tu as, pour leurs travailleurs dans le syndicat, des plus hauts revenus. Mais ce que tu as fait, c'est que tu as deux effets. C'est que tu as réduit massivement la demande parce que si tu as choisi le second best option, tu as augmenté le coût de production, tu as réduit la demande, tu as réduit la quantité demandée. Fait qu'est-ce qui se passe pour les autres pays? Bien, non seulement tu as moins de quantité demandée en général, mais ceux qui payent la facture, c'est le gros de la facture, c'est les gens dans les pays pauvres. Si tu veux vraiment aider les pays pauvres, là, les gens qui travaillent dans les sweatshops, achète chez Nike. Achète plein de paires. Tu veux vraiment les aider? Augmente la demande pour leurs services. C'est la seule manière que tu peux les aider.
Je vais aller un peu plus loin même. Puis ce que je vais avancer là, c'est complètement dans ma tête. Là. Je n'ai pas d'études à rien. Là. Mais c'est comme d'habitude dans mon cas. Mais la game, c'est la suivante. C'est que j'ai l'impression qu'on est aussi en 2021 dans le sens que l'information maintenant circule extrêmement vite. Je pense que le consommateur moyen, bien qu'il soit hypocrite et qu'il dit « Ouais, c'est pas drôle, les enfants qui travaillent dans un sweatshop qui font mes chaussures Nike », il en achète pareil des Nike. Par contre, si on apprend qu'ils utilisent des produits dangereux dans leurs usines et qu'ils rendent malades leurs gens puis qu'il y a des cancers après 10 ans, tout ça, je pense pas que le consommateur veut tolérer ça. Moi, personnellement, je ne le tolérerais pas. Fait qu'il y a une forme de protection qui se crée au fil du temps parce que la réputation de ces entreprises-là demeure très importante. Donc, je ne pense pas que ce soit si grave que ça d'utiliser les pays plus pauvres avec des prix.
C'est pas utilisé.
Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je veux dire d'aller dans ces pays-là avec des prix plus faibles parce qu'en bout de ligne, le consommateur, lui, demande un prix faible. Mais par contre, il y a des lignes qui ne seront pas dépassés parce qu'on est en 2021, parce que l'information circule maintenant, puis que le risque de réputation est quelque chose de très grave pour une entreprise. Chose qu'il n'y avait pas nécessairement dans les années 60-70. Tu sais, ce qui se passait dans les sweatshops dans ce temps-là, on ne savait pas. Aujourd'hui, on peut plus le savoir.
Ouais, attends une minute. Moi, je vais faire un autre pushback parce qu'il y a une prémisse là-dedans que j'aime vraiment pas. La prémisse que tu as faite, c'est que les gens là-bas, ils ne savent pas. C'est comme si tu étais en train de me dire que les travailleurs là-bas n'étaient pas au courant qu'il y avait des risques de travailler dans une usine, qu'il y a beaucoup de bruit, qu'il y a beaucoup de, mettons, peu importe c'est quoi qui est pas, toutes les choses que tu n'aimes pas. Tu es en train de me dire qu'ils ne sont pas au courant de ça et qu'ils n'ont pas choisi, un, parce qu'il faut que tu présumes que l'employeur... Ben... Non, parce que si moi, ce que je veux, c'est que quand je suis payé quelque chose, là, je ne suis pas juste payé en fonction de mon travail, je suis payé aussi en fonction des conditions de travail relativement aux alternatives.
Oui, mais il y a certains produits chimiques qui vont créer des problèmes sur une dizaine d'années, par exemple, puis tout ça, puis que quand c'est connu, parce que des fois, ce n'était pas connu, mais quand c'est connu, l'entreprise va retirer ça comme pratique assez rapidement parce que la réputation s'en va dans la toilette.
Oui, mais la question qu'il faut que tu te poses, qui est vraiment la. Je pense, ça ne veut pas dire, tu sais, que ton point n'est pas bon, mais c'est parce que je pense que tu surestimes son importance de ce genre de problème-là. Là. C'est que l'employeur, lui, quand il choisit de te payer, là, toi, tu choisis la plus grande valeur que tu peux retirer, puis lui, ce qu'il veut, c'est payer le moins d'argent possible. Si tu choisissais un type de paiement qui inclut plus de sécurité au travail puis un plus bas salaire, puis que pour lui, comme employeur, ça lui coûte moins cher de t'offrir ça, why the fuck would he do it? Il va le faire. Il va choisir ce qui te produit, toi, la valeur que tu es prêt à accepter son salaire relativement aux alternatives, right? Et qui est la moins chère pour lui. Bien, ça, là, dès que tu tiens ça en compte, bien, c'est la contrepartie, c'est que la personne, elle, doit être au courant des différentes facettes. Fait qu'un de mes amis, qui est Ben Powell, qui est prof à Texas Tech, lui, il a été dans des pays d'Amérique latine et il a pris des compagnies qui ont été protestées contre. Donc, il y a eu des manifestations contre des conditions de travail dans ces usines-là. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé, il a embauché une compagnie de sondage, donc il y a eu un grant de recherche, puis il a offert, il a demandé aux employés, en fait, ce que les sondeurs faisaient, puis c'est genre au Guatemala. Question 1. Est-ce que vous aimez vos conditions de travail? Non. Est-ce que vous voudriez plus d'air climatique, etc., etc.? Est-ce que vous seriez prêt à avoir tout cela pour 1% de réduction de salaire, 2%, 3%, 4%. Puis il essayait de voir, tout à fait, d'établir la courbe de trade-off que les gens avaient. Et ce que tu voyais, c'était que les gens étaient, dès qu'ils commençaient à sacrifier un peu du salaire, parce que moi aussi, je veux une plus grande maison, un plus grand bureau, un plus beau char, un frigidaire incroyable, mais j'ai pas envie de sacrifier plein de choses pour ça.
Mais là, on parle de populations qui remplissent même pas leurs besoins de base avec un salaire normal.
Exactement. Fait que là, tu sais, tu leur dis, ils sont capables de figurer c'est quoi qui valorise le plus eux. Fait que tu sais, quand les gens disent « je vais intervenir pour faire ça », ben peut-être, tu penses-tu vraiment qu'ils n'ont pas déjà fait le choix qui était optimal pour eux? Maintenant, est-ce que je pense que c'est cool qu'ils aient ces jobs-là? Parce que là, maintenant, les gens doivent penser que je suis complètement sans cœur et que je suis en train de dire « go les sweatshops ». Ce que je suis en train de dire, c'est que non, c'est probablement, tu ne devrais pas leur enlever cette option-là. S'ils l'ont choisi, c'est parce que c'est la meilleure option sur la table pour eux. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que tu fais pour augmenter le set d'options disponibles pour les travailleurs? Ben, ouais, il y a une réponse très simple. La première, c'est que tu les laisses immigrer. Fait que, tu sais, la question, laisse-les immigrer
vers les places. On réglerait beaucoup de problèmes avec ça.
Ouais.
Laisse-les immigrer vers les places où la productivité est plus élevée parce qu'ils sont matchés avec des meilleures machines ou peu importe. Exact. Ça va augmenter les salaires aussi pour ceux qui restent derrière. Hein, parce que ça c'est
tout très, à fait.
En fait, ça, c'est pas exactement vrai que ça augmente les salaires, c'est que ça augmente les salaires réels parce que ça réduit la demande de terrain. C'est ça l'effet que ça a.
Mais tu sais, on s'entend, il y a des pays qui vivent encore de subsistance, là, dans le sens que, comme nous autres, au début des années 20-30, l'agriculture, t'as ta terre agricole, c'est pour ta famille. Si t'en restes un peu, tu le vends au marché. Mais on n'est plus dans ce mode-là présentement, dans un mode qui s'est urbanisé. Par exemple, quoi qui s'est urbanisé, c'est parce que les agriculteurs aujourd'hui, c'est une très faible partie de la population. T'sais, on voit même encore traîner ça un peu dans nos stats. Là. Tu sais, quand tu as des stats de chômage, des non-farming jobs, unemployment, tu es là. Tu sais, je veux dire, en 2021, les affaires de farming, non-farming, tu es là, tu dis pourquoi au juste que c'est comme ça? C'est, tu vois clairement que c'est un vestige du temps là, qui est resté.
Mais tu as toujours beaucoup plus de chômage saisonnier dans le secteur agricole.
Exact, mais c'est la fraction de la population qui travaille là-dedans maintenant au Canada, par exemple. C'est ridicule par rapport à un pays d'Afrique, par exemple. C'est sûr que les gens, c'est plus de subsistance. Mais effectivement, si les gens quittent les pays pour venir immigrer dans un pays plus développé, ben ça laisse de la place à ceux-là qui restent en arrière pour avoir des plus grandes terres un peu, d'avoir plus de facilité à subvenir à leurs besoins. Puis c'est sûr qu'on s'entend, il y a des pays qui ne sortiront jamais de la merde aussi longtemps que la corruption va rester. Là. Ça, c'est connu, là.
Mais j'ajouterais un truc à ce que tu dis, je pense, qui est super hot. C'est que si vraiment tu veux augmenter le set de choix des gens qui sont les plus démunis sur Terre, la chose qui augmente le set de choix, c'est la productivité.
Oui.
Si tu trouves une manière de les rendre plus productifs, là,
l'électricité, par exemple, le téléphone, le système bancaire, le micro-prêt, des choses comme ça.
Tu vas voir à quel point ces jobs-là vont disparaître vite. Puis je pense que le meilleur exemple, c'est juste comparer combien de temps ça a pris pour des places comme le Québec ou le Massachusetts de passer de taux de travail chez les 12 à 18 ans, qui était de, tu sais, pour que ça tombe en bas, disons, d'à peu près 40 %, je pense. Là, j'essaie de me rappeler les chiffres que je mentionne de mon collègue Ben Powell. Ça a pris à peu près 60 à 70 ans pour tomber en bas d'un certain threshold, qui était quand même assez élevé. Aujourd'hui, tu regardes des pays comme le Vietnam ou l'Inde, qui ne sont pas des pays qu'on pourrait juger excessivement riches, là, soyons honnêtes.
Non.
Mais, en fait, la meilleure manière de le reformuler. Au niveau de revenus qu'eux ont aujourd'hui, nous, on avait au même niveau de revenus dans le passé, beaucoup plus d'enfants qui travaillaient en pourcentage de la population, de cette population-là.
C'était mon point de tout à l'heure.
Que ça devrait dire à quel point la productivité a augmenté, de telle sorte que tu n'as plus besoin, tu sais, d'un travailleur. Parce qu'un enfant, ce n'est pas un travailleur excessivement productif. Là.
Non.
C'est pas, ça n'a pas beaucoup d'expérience accumulée. Ça
c'est du dernier recours.
C'est du dernier recours. Fait que quand tu réussis à augmenter la productivité du travailleur moyen, mettons, ben, le travailleur marginal, l'enfant, n'a plus besoin d'être utilisé comme travailleur. Fait que si tu veux vraiment augmenter là, le set de choix des gens pauvres, augmente la productivité, trouve des manières de les rendre plus productifs pour que justement le processus se produise encore plus vite. Augmente leur set de choix en faisant ça. Puis ça, c'est, on revient un peu à l'État. Je ne suis même pas convaincu que les gens diraient ah ben, OK, investissons en éducation. Il y a un livre que j'adore, ça s'appelle The Beautiful Tree, qui est écrit par James Tooley, qui est un économiste. En fait, ce n'est pas un économiste de l'éducation, c'est un éducateur. C'est un gars qui se spécialise en sciences de l'éducation. Et ce livre-là, lui, ce qu'il soulignait, c'est que dans les pays du tiers-monde, malgré que l'État fournit l'éducation publique, la majorité des services d'éducation sont produits par des écoles privées low cost. Alors que les gens continuent de payer des impôts, mais c'est des écoles genre purement privées, c'est des for-profits, puis c'est eux qui fournissent dans des zones les plus pauvres de pays comme le Nigeria, l'Inde, le Vietnam, qui fournissent de l'éducation sur grande échelle pour les plus pauvres. Puis lui, c'est pour ça qu'il avait ça, le beautiful tree, c'est que c'est de l'éducation qui est fournie de manière privée, en dépit du fait que les gens payent des taxes, des impôts, des tarifs sur des biens importés, pour d'éducation qu'ils n'utilisent pas parce qu'ils jugent la qualité de ce que l'État offre est inférieure à l'alternative privée. Puis ce qu'ils trouvaient, c'était que, en fait, la majorité, puis ça a des gros effets sur les estimations de croissance qu'on fait, le niveau d'éducation dans les pays en voie de développement est super sous-estimé parce qu'on demande genre le nombre d'années dans les écoles. Là, on mesure comme le taux d'enrôlement, taux d'enrôlement dans les écoles publiques.
Okay.
Les écoles enregistrées, mais dans des pays comme l'Inde, tu as des taux d'enregistrement super élevés. Mais dans des écoles privées qui ne sont pas sur le radar des gouvernements, mais que les pauvres, eux, sont prêts à payer 1 ou 2 $ par jour pour avoir accès. C'est gigantesque dans des pays comme ça. C'est pas. En fait, le frais, je pense qu'il y avait une place, c'était comme 5 $ par mois, puis tu avais accès à une école privée. C'est des pays vraiment pauvres, mais les gens sont. Les pauvres sont super conscients de l'importance de l'éducation comme manière d'augmenter leur productivité et leur espace de choix. Fait que, tu sais, quand les gens disent « on va les aider
ouais, », c'est réalise, un gros transfert générationnel pour ces gens-là. Là.
Ouais. Ouais,
mais réalise que ces gens-là sont capables de s'aider eux-mêmes beaucoup plus que tu leur donnes du crédit, puis réalise aussi que plus souvent qu'autrement, tu leur nuis en leur empêchant d'émigrer ici, en limitant la capacité pour eux de vendre leurs produits chez toi à des tarifs à l'importation. Sérieusement, là, l'espèce de... Souvent, là, quand j'entends des gens critiquer les sweatshops ou des choses comme ça, ce que j'entends, c'est des gens en Occident qui sont privilégiés, qui ont des politiques publiques qu'ils aiment, qui appauvrissent les pays du tiers-monde, puis pour s'acheter une indulgence à tout
le monde. Ils veulent se donner bonne conscience.
C'est s'acheter bonne conscience en disant, regarde, j'aime pas ces choses-là. Oui, mais tu réalises-tu que peut-être qu'il y en a plus que ce qu'il y en aurait ou ça prend plus de temps.
Oui, mais le marché de la bonne confiance, mais de la bonne conscience maintenant, il est aussi monétisé dans l'économie, dans le sens que les entreprises, Café Équitable, par exemple, ils vont te le vendre 2-3 piastres plus cher. Ils vont dire qu'ils respectent toutes sortes de normes équitables, puis blablabla. mais ils ont monétisé ton désir de te donner bonne conscience. Puis là-dedans, sérieusement, ce genre de transaction-là, moi, je veux dire, j'achèterais jamais du café Kitam pour acheter du café Kitam. Je trouve ça un peu niaiseux, mais le fait que ce soit là puis quelqu'un veut le payer plus cher pour ça, good for you, buddy.
Ben, tu dis ça, mais ça, encore une fois, ça revient à mon point sur la productivité. C'est juste que là, c'est par moyen détourné. C'est ta productivité tellement riche que le 3 $ pour un café, pour le 3 $ d'extra par litre de café, pour toi, marginalement, vaut moins qu'auparavant quand tu avais un plus faible revenu, donc ouais, quand tu étais moins productif. Fait que tu sais, quand les gens disent le café est équitable, oh, OK, d'accord, fine. Mais ce que tu es en train de dire, c'est que la richesse nous a permis de consommer des choses qui sont beaucoup plus immatérielles qu'elles l'étaient auparavant. Crois-moi, ce n'est pas la personne qui est sur la marge de la subsistance qui considère l'éthique aussi facilement.
Ben non.
T'sais, je veux dire, la vertu, c'est ce qui nous apparaît moral, l'exercice de la vertu est beaucoup plus facile quand tu as l'aisance de pouvoir l'exercer.
Ben écoute, prends juste au Québec, par exemple, les gens vont juger les pauvres parce que ça, les enfants font rien que boire du Pepsi. OK?
J'aime tellement ça, ces affaires-là.
Regarde les alternatives. T'sais, à un moment donné, ces gens-là sont à la marge, puis ils veulent consommer de quoi? Ils veulent boire de quoi qui goûte quelque chose. De l'eau, c'est beau, mais ils veulent de quoi qui goûte quelque chose. Lait, Pepsi, jus, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ben, ils vont acheter le Pepsi, c'est le moins cher des trois.
Oui, puis surtout que deux choses.
Et là, l'abruti va arriver, puis il va dire « Ben, n'ayez qu'à mettre une taxe et les boissons gazeuses, vont arrêter d'en boire. »
Oui. Premièrement, je veux juste dire quelque chose. Il y a un de mes bons amis, malheureusement, qui est mort cette fin de semaine. Je l'aimais vraiment beaucoup. Mais lui, il disait « Je suis libertarien parce que je me soucie des pauvres puis parce que je me contrefous de tes intentions. » Puis j'avais trouvé que quand il avait dit ça, j'ai dit c'est exactement pour ça. Puis j'ai toujours été surpris à quel point il y a un plus grand respect des gens dans des contextes difficiles chez des libéraux que chez d'autres personnes. Parce que ce qu'on observe, c'est que c'est une condition qu'on n'aime pas, mais qu'on réalise que cette personne-là, c'est pas parce qu'elle a choisi d'être dans cette situation-là, c'est qu'il y a des contraintes. Puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ne sais pas mieux qu'elle. C'est-à-dire qu'elle, elle a un setup, ce que tu essaies de t'imaginer, puis c'est ça qui est vraiment important, je pense, dans la pensée libérale pour la lutte à la pauvreté, c'est que ce n'est pas une question de comment je le fais pour toi, c'est comment je te donne le plus grand espace de choix pour que toi, tu trouves ton chemin qui est important pour toi. Pas pour moi, pour toi. De comment tu améliores ton bien-être.
Es-tu en train de dire que des gens de droite auraient une certaine forme d'empathie?
J'haïs le terme droite, là, je pense que
j'en ai parlé plusieurs fois. Je comprends ce que je veux dire.
Mais si, mettons, je dis libéral, je pense que intrinsèquement, le libéralisme est beaucoup plus pro-pauvre que les autres idéologies qui existent, tout simplement parce qu'il y a un respect intégral chez le libéral pour le choix des individus. Exact. Puis que ce qui crée la richesse, c'est de donner aux gens la liberté d'exercer un choix. Pour ça, tu sais, quand je parle à mes étudiants de développement, je leur dis, le développement, c'est pas juste d'avoir plus de revenus. C'est d'avoir la liberté d'exercer une agence. Donc, de faire des choix, d'avoir que le choix, ce soit pas juste un concept théorique, mais une réalité pratique. Bien, ça, c'est le vrai développement. Mais il y a juste des libéraux qui conçoivent ça. Les libéraux, ça peut inclure de la gauche sociale-démocrate, là, mais c'est juste des libéraux dans la grande famille libérale qui conçoivent le développement de cette manière-là en centrant sur est-ce qu'on fait quelque chose qui réduit tes choix disponibles? Est-ce qu'on te fait mal sans le savoir? Est-ce qu'on peut enlever ce qui te fait mal? Et est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Puis c'est là que tu as des libéraux qui sont un petit peu plus ce qu'on appelle des bleeding heart libertarians, ceux qui disent, ben, par exemple, on devrait peut-être avoir un revenu minimum garanti pour te hisser au-dessus d'un seuil de privation sociale, mais qu'après, c'est all on you, que tu es libre après ça. Des idées comme ça, tu en as des variances dans cette idée-là, mais la prémisse, c'est... Puis d'ailleurs, quand tu écoutes les gens, les libertariens qui ont une défense un peu d'un revenu minimum garanti, ils ne vont jamais défendre que ça doit être différent pour d'autres personnes. Ce qu'ils vont dire, c'est on te donne l'argent, tu sais mieux comment la dépenser que moi, puis c'est à toi de décider comment l'utiliser. Point barre. Il y a quand même une certaine.
Mais on a, c'est là que tu vois qu'on a un côté très autoritaire parce que les gens qui défendent les pauvres plus souvent qu'autrement vont arriver avec des solutions de dire food stamps parce que je veux pas qu'ils s'achètent des cigarettes avec son argent. J'ai
ça, cette mentalité-là. Ouais. Tu leur fais
on l'entend tout de suite. Hein? Puis c'est des grands défenseurs de la pauvreté qui vont dire des affaires de même.
Oui, mais c'est comme pour si moi, tu disais que leur consommation était moralement abjecte et la tienne était bonne. Moi, je. Ah, mais. Eux, ils fument la cigarette, puis la cigarette, c'est mauvais. Mais moi qui vais dans un cigar lounge une fois par mois, c'est correct. Moi qui, toi qui bois de la bière de mauvaise qualité, c'est pas correct. Mais moi qui bois du scotch, c'est correct. Écoute, tu sais, je dis que je suis élitiste. Je suis élitiste sur la base d'un peu de gosser un peu, puis c'est un peu pour rire. Mais en réalité, je suis vraiment beaucoup plus égalitarien que les gens réalisent. C'est juste que tu as des gens qui sont égalitariens sur papier, puis qu'ils veulent juste être vus comme ça, puis que le résultat n'est pas vraiment important pour eux. Alors que moi, je m'estime vraiment comme... Je veux que les pauvres aient plus de croissance économique que les riches. Mais, je veux dire, pour moi, c'est quelque chose de
on va philosopher un peu, là. On va aller du côté plus à Frank. Mais comment ça, on part? Des gens comme nous, là. Tu sais, on ne pense pas pareil, mais on a chacun nos différences. Mais pourquoi on passe tout le temps pour des chiens sales? S'en face, là. Tu sais, ce qu'on entend le plus, tu sais, les gens qui prennent la peine d'écouter la série podcast, là, vous êtes rendu au 9e, 10e, 11e, là. Même plus que ça, je pense. Mais là, vous écoutez ça, puis vous dites, ces gars-là, c'est pas des caves, c'est des gens qui sont quand même assez respectueux du choix des autres. C'est des gens qui ont une certaine empathie. Pourquoi on passe, quand les gens nous décrivent, par exemple, dans les médias ou dans... les préjugés qui vont se faire, pourquoi on passe tout le temps pour des Christie de sans-cœur dans ces histoires-là?
Ben, je sais pas, pour la personne qui écoute, mettons, la radio quotidiennement, puis que, mais qui, tu sais, qui pense pas au sujet en profondeur, c'est peut-être plus que tu reflètes ce que tu as entendu, puis des fois, il y en a que c'est tout simplement, ben, tu sais, mettons, juste personne moyenne qui écoute, puis qui présume que la critique qui est faite, qui a entendu, disons, de Yann Sénéchal, de Vincent Gélozon, de Frank, ben que cette critique-là, c'est une critique valide. Mais ils l'ont entendu de quelqu'un d'autre auparavant. Donc là, il s'est remâché. Puis, c'est facile de juste présumer que ton adversaire, c'est le diable.
Ouais.
C'est bien plus facile dans une discussion. Tu sais, des fois, il y a des choses qui ne nécessitent pas une explication très difficile. Je ne pense pas que c'est de la mauvaise foi, mais tu sais, c'est pas comme si moi-même, j'essaie de me présenter comme un saint ici. Là, je veux dire... Je fais aussi des fois l'erreur d'ignorer des gens avec qui je ne suis pas d'accord, d'ignorer un argument. J'essaye de ne pas le faire, mais c'est un instinct complètement naturel de dire « Mais non, mais là, c'est un gars de QS, c'est un débile. Vincent Gélozo, il a travaillé à l'IEDM. C'est clairement un scandale à grosse droite. » C'est bien plus facile d'essayer de t'éviter, tu sais, de confronter des choses qui te rendent mal à l'aise que de les écouter et d'essayer d'incorporer, de faire les nuances. Des fois, c'est juste aussi simple que ça. Fait que, tu sais, quand j'entends ça et que les gens pensent ça, je pense que c'est plus le reflet de, mettons, un chroniqueur qui est souvent là, que lui a ses préférences idéologiques très, très, très fortes. Tu sais, ça revient à mon analogie que j'avais faite l'autre jour, là, les hobbits puis les hooligans. La plupart des gens, c'est des hobbits qui veulent juste vivre leur vie, manger leurs deux déjeuners, avoir du fun, voir leurs amis, tu sais, vivre leur vie. Des gens normaux, décents. Puis, t'en as que c'est des hooligans, que eux, là, c'est à propos de la tribu dans laquelle ils sont, puis c'est d'être membre de la tribu qui compte, puis c'est l'autre tribu qui doit être écrasée. Mais c'est pas vrai que ces deux groupes-là ne communiquent pas. Là. Des fois, les hooligans font passer de l'information que le hobbit se fout un peu, mais ça ne l'affecte pas. Ils ne pensent pas très agressivement, mais il a incorporé l'information. Ils pensent effectivement que les hooligans A qui disent que les hooligans B, c'est des trous de cul, bien que les B, c'est des trous de cul par définition, qu'ils ont entendu A dire ça de B.
C'est juste une question de quantité d'exposure à une gang plus qu'à l'autre, rendu là.
Oui. Puis tu remarqueras, je veux dire, on s'amuse entre nous autres ici à faire ça, puis il y a peut-être quoi, 500 personnes qui écoutent nos affaires, mettons, chaque semaine. Ouais. Bien, tu sais, c'est parce que le format de générosité intellectuelle requiert beaucoup plus de temps que le format l'autre gars, c'est un truc de cul. Bien plus facile. C'est beaucoup plus intellectuellement demandant d'essayer, tu sais, de. Puis même moi, je pense une couple de fois dans le show, je pense que j'ai été mal généreux à l'égard de gens avec qui je suis pas d'accord. Tu sais, comme tantôt, j'ai fessé les sociologues, là. C'est facile pour moi, mais en réalité, tu sais, je fais ça, puis je dis ça. Mais je sais que la plupart des sociologues sont vraiment des chercheurs super honnêtes. puis que je laisse les quelques-uns qui me tapent ses nerfs, puis que je vais dans un réflexe qui n'est pas généreux. Mais tu sais, l'exercice de la générosité intellectuelle, c'est demandant, c'est pas facile. Je m'estime un des meilleurs là-dedans, puis je suis quand même poche. Fait que tu sais, je ne peux pas blâmer quelqu'un qui travaille à Radio-Can, je ne suis pas généreux, de ne pas être capable d'exercer ça, là.
Ouais, mais il y a quand même aussi un genre de phénomène de ben, pas de, j'allais dire d'ignorance, mais c'est un peu ça, là, tu sais, dans le sens qu'on utilise quand on parle des mots et des termes. Il y a très peu de gens, en fait, qui connaissent l'origine ou la signification de ces termes-là. Tu sais, tu as parlé de droite tout à l'heure. Tu sais, l'opposition gauche-droite, en fait, tu sais, moi, je me souviens, je l'ai raconté plusieurs fois dans d'autres podcasts. Là, mais...
Je vais vous laisser finir là-dessus, les gars. Il faut que j'aille au baseball des enfants.
Pas ouais, trop. Moi, il faut que je quitte dans à peu près à 4h10. On va mettre un terme à ça, Frank.
Yes, ben, je vais faire ça court. Quand j'étais au cégep, là, il y avait un prof de politique qui il nous disait, bon, ben voici comment marche la politique. T'sais, il y a un tableau, ça c'est la gauche, ça c'est la droite. Et on il nous faisait faire remplir un petit test, puis après, tu allais faire un X au tableau, à peu près où l'écran t'avait donné que tu étais dans le tableau. Et puis dans le test, là, tu avais, mettons, à gauche, il y avait, je sais pas moi, des personnages comme Gandhi, tu sais, des gens, Martin Luther King, je sais pas quoi. Et à droite, c'était Hitler, tu sais. Donc, évidemment que quand les termes sont posés dans ces... truc-là. Hitler, by the way, c'est un socialiste. Je ne sais pas ce qu'il fout à droite, mais ça, c'est un autre débat dans lequel on pourra parler une autre fois. Mais...
Ben en fait, ouais, non, j'ai toujours refusé un peu l'idée que c'était un socialiste parce que c'est comme... Ça ne l'était pas exactement, mais c'est parce que c'est complètement irrelevant. C'est un étatiste. Puis un étatiste, je veux dire, pour moi, un étatiste, c'est un étatiste, c'est un étatiste qui soit étatiste corpo ou socialiste ou peu importe. Tu veux la même chose au final, c'est juste que la manière dont tu justifies est complètement différente.
Non, exact. Mais bref, ça, on aura peut-être cette discussion-là une autre fois. Mais l'idée, c'est que en général, dans la tête de monsieur, madame, tout le monde, puis des gens qui connaissent la politique, mais pas tant que ça, puis je le sais parce que j'ai moi-même été comme ça, parce que j'étais un fruit de l'instruction publique, puis c'est comme ça que tu es éduqué, puis c'est comme ça que le message se passe de personne en personne. Sans trop savoir de quoi on parle, tu viens un peu avec l'idée, le présupposé que le bien... ou disons la générosité, l'empathie, le sens commun, tout ça, elle se campe à gauche. Et l'égoïsme, l'individualisme, le fait de penser uniquement qu'à soi, de pas avoir d'empathie, de rechercher le profit avant tout, tu sais, ce genre de cliché-là, ben, c'est des gens qui sont à droite. Et comme la majorité des gens ne veulent pas se définir comme étant des mauvaises personnes, mais par défaut, se sentent plus à gauche, dans le sens commun qu'on entend dans la société. Combien de fois, moi, j'ai eu des gens qui m'ont écrit suite à des podcasts ou avec qui j'ai discuté dans toutes sortes de contextes, puis qui m'ont dit « Ah, tu sais, j'ai tout le temps pensé que j'étais quelqu'un bien à gauche, puis finalement, à force de te lire, à force de t'écouter, tout ça, j'ai lu Atlas Shrugged de Ayn Rand, puis je me retrouve dans ces idées-là, puis j'ai l'impression que finalement, je suis peut-être plus un libéral ou un libertarien. » La raison à tout ça, c'est que en fait, on utilise ces concepts-là pour définir souvent la politique, notre vie de tous les jours, nos relations avec les autres, mais en réalité, c'est très peu « relevant », pour reprendre un terme que tu as dit, pour qualifier les oppositions qu'on a, alors qu'en réalité, souvent, l'opposition qui est la plus frappante est souvent plus celle de, je dirais, libertaire-autoritaire ou libéral-autoritaire, souvent, alors que les gens se disent... les gens, finalement, se disent « Ouais, mais tu sais, moi, je me vois pas du tout dans tel courant politique de telle manière que c'est présenté. » Mais tu sais, je pense que si on définit les oppositions politiques ou les axes politiques avec des grandes généralisations comme celle-là, évidemment, on crée des clans, d'une certaine manière, on crée des oppositions qui fait que, ben, comme tu l'as dit, là, dans certains pays, ça va être démocrate, républicain, dans d'autres, ça va être libéral, conservateur. Puis le but, finalement, ça devient plus de défendre son camp ou de justifier ce que son camp fait plutôt que de voir s'il y a une réelle composante idéologique là-dedans qui est cohérente. T'sais. Puis au Québec, par exemple, on a eu pendant très longtemps le prisme, l'opposition qui se faisait entre souverainiste et je sais pas si tous les gens qui étaient contre la souveraineté étaient des fédéralistes absolus, mais disons que ça se faisait comme ça, puis ça allait amener plein de gens à dire, ben moi, comme je suis souverainiste, ben je suis aussi pro tout ce que dit le PQ, puis alors qu'en réalité, tu écoutes ces gens-là parler, puis tu leur parles dans une conversation seul à seul, tu te dirais, en réalité, ils sont beaucoup plus à droite qu'ils pensent. C'est des gens qui sont assez conservateurs.
Ouais, ils sont juste souverainistes.
Ils sont juste souverainistes, mais ils ont en fait adopté tout le package deal qui vient avec parce que c'est l'idée fondamentale auquel ils se rejoignent. Comme beaucoup de gens que j'ai connus, moi, que tu leur parles, tu te dis, ouais, mais en réalité, c'est pas mal plus libertarien ou conservateur que tu penses, mais comme c'est des gens que dans leur tête conservateur, c'est quelqu'un qui est contre l'avortement, ben, dans leur tête conservateur, ouais, c'est dégueulasse. T'sais.
Oui, bien, ça, te rappelles-tu, à un moment donné, on parlait dans le podcast de comment on homogénéise par la politique. En fait, c'est nécessaire par la politique d'éliminer les nuances, d'homogénéiser le plus possible. Je pense que c'est ça qu'on fait avec gauche-droite. C'est qu'on essaye, puis la manière dont je le vois, là, c'est un peu, je ne sais pas comment le dire sans faire de mathématiques, là, mais j'imagine des différents vecteurs. Puis il y a trois grands vecteurs dans lesquels les gens, trois espaces en gros, là. C'est, tu as celui où est-ce que tu as celui des conservateurs où tu es tradition versus, barbare, donc un peu civilisation, barbarians versus civilization. Tu as
décadence civilisation, là, si on peut dire. Ouais.
Tu as un autre axe de conversation chez les progressistes qui est opprimé, oppresseur. Et tu as les libéraux qui sont coercitifs, volontaires. Right? C'est trois grands axes. Mais c'est tout à fait possible, tu sais, pour un libéral comme moi, disons, de voir des similarités parfois avec certains points que les conservateurs font, mais ils parlent dans un autre langage complètement. Là. Leur langage, c'est celui décadence civilisationnelle versus civilisation. Des fois, je peux parler avec, disons, des gens de gauche où est-ce que je souligne, bien, il y a de l'oppression ici parce qu'il y a coercition, mais on le dit dans deux langages complètement différents. Mmh. Mais là, tu remarques que c'est un univers à multiples dimensions.
Exact.
On a décidé que, puis ça, les gens devraient imaginer un cube dans lequel tu as trois axes. Tu as un axe des X, un axe des Y, tu as un axe des Z. Mais c'est les trois grandes conversations. Avec gauche-droite, j'ai décidé de tout compresser cet univers-là d'un cube. Puis là, je sursimplifie, il y a probablement plusieurs autres axes de conversation, mais je dis de tout compresser cet univers-là sur une ligne. Une seule ligne. C'est une dimension, là. J'ai passé de trois dimensions à une dimension, mais j'essaie de tout. Tu peux pas. Ceux qui sont capables de visualiser mathématiquement, c'est quoi que les transformations linéaires font, là? Tu viens de voir, tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas converser la complexité du monde, d'un monde 3D, en un monde 1D. Ça se fait juste pas. Mais politiquement, c'est nécessaire de faire ça parce que tu ne peux jamais former une coalition. En fait, plus tu augmentes le nombre de dimensions dans lesquelles les gens conversent, plus c'est impossible de former une coalition qui est stable. Il faut que tu homogénéises et tu homogénéises, disons, pour ça, par exemple, des fois que tu avais des alliances entre libertariens et conservateurs, parce que l'opposant qui était la gauche, les communistes, c'était la coercition et la décadence civilisationnelle. Fait que tu avais une alliance entre les deux. Bien, une fois que le communisme a disparu, l'alliance entre les libertariens et les conservateurs aux États-Unis s'est érodée très rapidement. Et maintenant, tu as plus d'alliances entre les conservateurs, entre les libertariens et les progressistes que tu en avais entre les conservateurs puis les autres. Les alliances peuvent changer comme ça dans cet univers à demi-dimension, même si les deux groupes ne s'aiment pas.
Oui.
Parce que là, tu haïs l'autre groupe plus.
Ben oui. Puis en plus, des fois, là-dedans, c'est qu'on parle, puis on discute de politique ou d'idéologie ou de philosophie ou peu importe, puis on utilise des mots des mots polysémiques, là, c'est-à-dire que, par exemple, mettons le mot « libéral », là. Bien, les gens utilisent parfois dans un contexte libéral pour faire référence au libéralisme économique, et d'autres fois, ils font référence au libéralisme que j'appellerais philosophique, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais un « liberalisme », qui n'est pas nécessairement un libéral d'un point de vue économique, qui est un progressiste. Mais c'est qu'à la base de l'origine du libéralisme, quand on remonte le courant, à un moment donné, il y a un schisme dans ce courant-là où n'est pas nécessairement des deux courants libéraux, quelqu'un qui se dit libéral Donc, tu sais, il y a tout un historique là-dedans. On utilise des mots qui ont des connotations différentes pour parler de choses qui, des fois, n'ont pas nécessairement de lien. Fait que même au sein d'une discussion, des fois, on ne comprend même pas ce que les gens veulent dire. En plus de ça, il y a des mots qui ont des sens dans le monde anglophone qui n'ont pas du tout le même sens dans le monde francophone. Donc, après, ça devient difficile d'avoir une conversation éclairée où justement les gens sont un peu généreux dans la conversation parce que tu ne peux pas toujours prêter des mauvaises intentions aux gens. T'sais, moi, c'est sûr que c'est pour ça que j'ai de la misère à avoir des discussions avec des... T'sais, si le présupposé de la personne, c'est que quelqu'un qui se dit, je ne sais pas moi, libéral ou libertarien, ben, c'est un fou puis un gars d'extrême droite, ben, moi, la discussion s'arrête là.
Ben, tu ne peux pas vraiment parler avec ça.
Il n'y a pas de discussion possible. C'est comme si moi, n'importe qui est à, entre guillemets, gauche du centre, dans ma tête à moi, je le considère comme étant Staline, ben, il n'y aura pas de discussion possible, évidemment. Là. C'est ce qui est un peu dommage, parce que des fois, c'est très caricatural, parce qu'en réalité, on peut avoir des convergences sur certains points. C'est comme, par exemple, je ne sais pas moi, dans le débat sur la légalisation du cannabis. Ben là, ça devenait, à un moment donné, très compliqué de se positionner dans ce débat-là, parce que tu avais, d'un côté, les gens qui étaient contre absolument parce qu'ils voyaient là une décadence des valeurs de la civilisation, etc. Tu avais les gens qui étaient pour parce qu'ils voulaient que le gouvernement s'occupe de ça puis finalement que ce ne soit plus dans les mains du crime organisé ou quoi que ce soit. Puis tu as des gens comme moi qui disaient, ben, tu sais, moi, je suis pour la légalisation, mais je suis contre que le gouvernement en vende. Et là, c'était, tu tombais dans une espèce de crack où, en fait, personne voulait débattre avec toi parce que le débat, les termes du débat avaient été posés que soit, si on prend l'exemple du Québec, soit tu es pour la création de la SQDC, soit tu es contre la légalisation du cannabis. Mais moi, je dis, ouais, mais moi, je ne rentre pas dans les termes de vos débats. Je refuse de débattre si l'opposition, c'est ça.
Oui, mais ça te montre aussi qu'il y a une autre affaire que les gens oublient, là, mais ça s'appelle le agenda setting. C'est que c'est toi qui décides de quand est-ce que la conversation commence, c'est toi qui détermine les termes de la conversation et donc qui participe à la conversation. Tu penses-tu vraiment que quand c'était le temps de parler de légalisation, le gouvernement avait décidé, oui, on va ouvrir les termes de la conversation dans une manière qui est tellement vaste qu'on n'aura pas notre bénéfice politique à nous. C'est bien mieux si ce que je fais, c'est que, regarde, il y a le 10% de gens qui sont des free market people, mais eux, là, ils vont juste vouloir qu'on fasse rien. Mais ça, là, c'est pas un argument que je peux gagner, c'est pas quelque chose que ça vaut la peine de se battre. Mais si je réussis, tu sais, à me battre contre le conservateur, le méchant conservateur qui, lui, m'accueille haït plus que le crinqué, whatever, free market là-bas.
Ouais, ouais.
Ben, c'est mieux pour moi de setter la conversation pour écœurer ce gars-là et exclure la troisième option dans la conversation. C'est toujours mieux de faire des choses comme ça que... c'est pour ça que l'agenda setting, c'est vraiment super important dans comprendre la dynamique, mais ça revient à... Il faut que, pour mon intérêt, j'homogénise la conversation, que j'enlève des nuances. La politique, c'est toujours ça. Il faut que tu enlèves des nuances.
Oui, c'est clair. Et je veux dire, sinon, il n'y aurait jamais de politique qui se ferait, là, parce que sinon, je veux dire...
Ben, c'est pour ça que ça serait mauvais.
Oui, ben, de toute façon, la démagogie est beaucoup plus vendeur que... C'est beaucoup plus vendeur que la pédagogie, puis la nuance, puis tout ce que tu veux. T'sais, si t'es dans la simplification à outrance, je veux dire, c'est bien plus facile de faire du racolage politique, puis d'aller...
Ben, l'effort intellectuel, c'est pas facile. Hein. Après tout, on suffit de regarder Radcan, puis c'est ça. Tu regardes, encore une fois, je suis pas généreux.
Ah, mais... c'est ça, encore une fois, t'es pas fin. Là.
Encore une fois, je suis pas fin, mais c'est fréquent que ça m'arrive de regarder. Je suis comme, t'as-tu vraiment pensé à ce que t'as dit, là?
Non, c'est clair.
Je pourrais dire aussi que j'entends souvent, pour être honnête, là, j'entends souvent le même type de choses que je vois à Radio-Can, mais de l'autre bord de la clôture à Radio X. Mm-hmm. Mais à la limite, c'est que la différence, c'est que c'est peut-être là que je suis peut-être moins que tu les critiquer Radio X. C'est que Radio X, je ne paye pas pour.
Ouais.
Quand je ne l'écoute pas, je ne paye pas pour. Radio-Can, ouais. Quand je ne paye pas, je paye quand même pour.
Mais en même temps aussi, comment je pourrais dire ça? Radcan n'est pas soumis aux mêmes contraintes commerciales que, c'est par exemple, une radio d'opinion va être soumise. Puis moi, pour y avoir collaboré quelques fois, c'est sûr que T'sais, si, par exemple, tu es invité à la radio pour parler d'un livre, ben moi, je lis un livre, je me fais un résumé, j'ai tous mes points, j'ai toutes mes affaires. La réalité, c'est quand je vais avoir fini mon 5 minutes ou mon 10 minutes pour parler de ce livre-là, j'ai parlé de, je ne sais pas moi, 3 points sur les 25 que j'avais notés. Puis, t'sais, j'ai essayé du mieux que je pouvais de parler de ça. Ben, c'est sûr que les gens qui écoutent ça vont se dire « Ouais, c'était simplificateur, hein, c'est vraiment surface, puis c'est ci, puis c'est ça. » Ouais, mais je n'ai pas donné un cours de 45 heures sur le livre. J'ai essayé d'expliquer pour que des gens qui sont en train de poser de la céramique puis qui écoutent la radio puissent à toute limite comprendre. Donc,
ou au moins être intéressé.
Ou au moins être intéressé. Puis, c'est ça aussi. Là, moi, je pense qu'il y a... Il y a certains médias que par définition, tu ne pourras jamais rendre. C'est pour ça que le podcast, c'est fabuleux pour ça, parce que tu peux avoir Joe Rogan ou je ne sais pas trop qui fait un podcast ou nous autres qui fait un podcast pendant 3 heures ou 2 heures et demie à jaser d'un concept. Puis là, tu peux y aller plus en détail. Puis tu peux revenir aussi sur ce que tu as dit. Dire, ouais, au dernier podcast, j'ai dit ça, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je corrige un peu ce que j'ai dit. Alors que si tu étais à la télé, je veux dire, tu ne commenceras pas le bulletin de nouvelles ou, ou ton émission de radio en disant, ouais, hier, j'ai dit ça, mais en réalité, ce que je voulais
À moins que c'était un gros screw-up.
Non, c'est ça. Donc, Chaque média a ses forces peut-être et ses faiblesses. Hey, je sais que tu dois y aller, donc je vais te laisser là-dessus. Je vais arrêter notre enregistrement.